Real-Bayern, quel sera le score final du match? Karine Galli.
2-1 Real.
Ok. Hervé Penot.
Ça faisait longtemps ça. Il y aura 2-1 Bayern.
Ok. Sébastien Tarago.
Un partout, 2-2 après prolongation, Bayern au tir au but.
Ok là. Dominique Sebrac.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
0-0 Real Madrid, bonsoir.
Ok. Et enfin, Jomico.
Un partout.
Ouais.
Bayern. Non.
C'était une finale de Ligue des Champions, 14 fois lauréat. Ce soir, Montréal s'est imposé 2-1. Le Bayern menait 1-0 jusqu'à la 88e minute quand José Lu est sorti du banc 7 minutes avant et a claqué un doublé. Et puis une fin de match assez extraordinaire, extraordinaire au sens propre au premier du terme, puisque un but a été marqué par le Bayern, par De Ligt, qui a été refusé alors qu'il y a eu un coup de sifflet avant indiquant un hors-jeu d'un joueur du Bayern. Ce but a été refusé alors que De Ligt et aucun attaquant du Bayern n'étaient hors-jeu. Donc qualification du Bayern. On a commencé par un plan sur Karine Galli. Karine, évidemment, vous ignoriez toutes ces circonstances et ces rebondissements, mais vous gagnez le prono.
Je savais que ça se passerait comme ça.
Ah, vous savez que ça se passerait comme ça.
J'ai combien de points, Mémé ?
Alors, vous n'avez aucun point.
Ça n'existe plus ?
Mais vous avez les deux jokers pour le quiz.
Ah, d'accord. Voilà. Okay. Bon, c'est bien.
Et on me dit que tu en auras bien besoin.
Sébastien est dans la place. Hervé Penot se tait, mais voilà, il est à présent.
J'écoute.
Dominique Sebrac est là. Bonsoir Dominique. Et Johan aussi est présent pour une qualification extrêmement logique du Real.
Une qualification classique du Real Madrid.
Classique. Virginie, on n'a pas encore les images. Bonsoir Virginie, on est en train de faire le montage.
Ah si, je pense qu'on les a.
Eh ben on y va alors.
On y va, c'est parti. Le Real a l'occasion de marquer déjà à la 14e minute. Carvajal sert Vinicius qui croise sa frappe. Le ballon touche le poteau. Rodrigo suit dans l'axe, mais Neuer était prêt. Gros match du gardien ce soir. 40e Neuer, encore intraitable, qui s'arrache sur le centre-tir de Vinicius pour préserver le score. La transversale d'Harry Kane pour Alphonso Davies à la 68e permet aux Bavarois d'ouvrir le score d'une frappe puissante. Le défenseur rentre dans la surface et se met sur son pied droit. Lounine est battu. Grosse bourde de Neuer ensuite à la 88e. La frappe de Vinicius séparée mais pas captée. C'est repris par José Lu pour enflammer le stade. Il tue le match à peine 2 minutes plus tard après un cafouillage dans la surface. Le Bayern a marqué au bout du temps additionnel. On l'a vu, mais l'arbitre a sifflé hors-jeu. Donc le but n'est pas accordé. Et Carlo Ancelotti va disputer sa 5e finale de Ligue des Champions.
Oh là, une qualification classique par...
Ouais, entraîneur.
Ouais. José Lu joue.
José Lu. Une qualification.
L'idée française.
Parce qu'il en a fait quelques-unes, joueurs aussi.
Mais enfin là, il est entraîneur. En
deux.
Il
a les amis, juste. On va arrêter de faire les émissions parallèles. Est-ce une qualification classique du Real? C'est la qualification, enfin c'est ce qu'a trouvé comme terme notre ami Joan Micou.
Bon, classique.
Classique, une petite erreur d'arbitrage, un truc, un machin.
Non, j'ai pas d'erreur d'arbitrage.
J'élargis le mot.
Sur la fin, il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage.
Le but refusé, il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage.
Je pense qu'il y a quand même un énorme doute. Et à minima, il y a une faute d'arbitrage puisque le juge de touche lève le drapeau avant même que l'action se termine. Non, ça, c'est une faute.
Mais ce qui est incroyable.
J'appelle tout de suite Saïd Njimi. Notre arbitre pour la Saïd. Bonsoir. Venez vous asseoir à côté de Sébastien.
J'ai commencé à vous entendre parler. Je suis pas l'arbitre du match. Hein.
Non, la situation, non, vous êtes donc le bienvenu. Ouais. Saïd, sur cette situation extrêmement confuse. Donc, on joue depuis 12 minutes le temps additionnel. Une action se développe du côté du Bayern. Là, il y a De Ligt qui marque. Et l'action avant, nous, ce qu'on a vu, c'est que l'arbitre siffle un hors-jeu à peu près un poil avant. Écoutez, c'est à peu près ce que vous avez constaté ou pas déjà, partant d'un socle commun.
Traditionnellement, on attend que l'action se termine pour avoir la certitude si jamais le joueur était en position de hors-jeu ou pas. C'est vrai que c'est surprenant de voir, dans ce cadre exceptionnel, l'arbitre lever son drapeau. Mais il n'en reste pas moins vrai que... À la limite, pourquoi pas, mais je pense que toutes les actions sont checkées à la VAR et qu'il n'est pas envisageable, pas entendable, en tout cas on va le savoir très vite, que l'arbitre ait pris une mauvaise décision, ou en tout cas sans le soutien de la VAR.
Mais
le fait
qu'il siffle, ça arrête l'action.
Bien sûr.
C'est-à-dire que la VAR ne peut pas revenir dessus.
Il peut plus.
Et le gardien ne joue pas.
C'est là où je vous rejoins. Où traditionnellement, on a plutôt tendance à laisser l'action se poursuivre, justement pour éviter ce genre de désagrément.
Mmh. Non, parce que le gardien, on a l'impression que lui a entendu le coup de sifflet et il ne va pas. Il s'arrête de jouer. Donc après, il peut toujours dire...
C'est impossible d'accorder le but, même s'il n'y a pas hors-jeu. Non, mais franchement, le hors-jeu, je pense qu'il faut vraiment regarder. C'est très limite. C'est très limite, mais peut-être qu'il n'y a pas hors-jeu. Et c'est insensé que cette action ne soit pas allée au bout. C'est-à-dire qu'on laisse jouer parfois 15 secondes une action. Là, c'est 3 secondes.
Non, mais là, c'est
3 secondes.
Non, surtout qu'il y a un vrai litige sur hors-jeu. Si le mec est un mètre devant qui signale, c'est logique.
Bien sûr.
Mais là, c'est tellement litigieux. Tu dois laisser finir l'action pour ensuite éventuellement checker.
T'es au bout du bout.
En plus, oui, à la fin.
Tu peux laisser, t'es arbitre, tu peux laisser 15 secondes de plus, ça change rien.
Pardon, il y a quelques minutes, Hervé et Karine, vous nous disiez, bah non, la qualification n'est pas entachée d'une erreur d'arbitrage.
Non, parce que moi, erreur d'arbitrage, c'est pas le terme.
Bah, une erreur, une faute.
Parce qu'il y a eu. Ben non, mais déjà, on ne sait toujours pas s'il y a eu hors-jeu ou pas. Il faudrait déjà qu'on le sache.
Sur les premières images, moi, il me semble qu'il est couvert.
Non, mais attendez,
c'est très limite.
On a regardé plusieurs fois l'égalisation du Real pour savoir si le but était valide, etc.
Le but du Real, franchement, en 5 secondes, vous avez compris.
Non, mais attends, plusieurs fois, ils ont montré la ligne, etc. Oui. Là, pour l'instant, on n'a rien vu. Et il y a aussi quand même une chose, c'est à quel moment l'arbitre met autant d'arrêts de jeu. On a tous été extrêmement surpris.
Non, mais ça change rien.
Bah oui,
c'est pas ça.
Non, mais c'est autre chose.
Non, mais ça, c'est un autre
truc.
Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre truc. Là, le jeu se continue. Donc là, il fait une erreur flagrante.
Non, mais l'arbitre. Non, mais l'arbitre fait une erreur. Non,
c'est incroyable de siffler. Quoi.
Oui, mais dire ça a changé le résultat, j'en sais rien. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est un peu. Mais non, mais j'ai l'impression qu'il est un peu hors jeu.
Non, mais ce qui va.
Mais s'il est hors jeu, tant mieux pour lui. J'espère qu'il est hors jeu.
Ce qui est scandaleux, c'est qu'il siffle aussitôt, ça c'est certain. En plus, on parle quand même d'un arbitre qui était en finale de Coupe du Monde, il connaît le boulot.
Et le problème, c'est le juge de touche.
Pourquoi il siffle Narcia qui doit attendre?
Parce que c'est quoi ton avis, que si tu te mets à sa place, pourquoi il siffle, alors que d'habitude, on l'a dit, l'usage, c'est d'attendre que ça se termine, pourquoi là, à 12 minutes ou 14 minutes, mais on s'en fout.
Une erreur, c'est le juge de touche.
Pourquoi le juge assistant lève le drapeau?
C'est incompréhensible, parce que 999 fois, pour pas dire 9999 fois sur 10 000, on attend toujours la fin de l'action. Encore plus dans ce contexte d'enjeu.
Il est pressé, qu'est-ce qu'il a
honnêtement,
il est certain de lui.
Il y a certaines choses que je ne m'explique pas.
Non, ça n'arrive jamais. Ça.
Sinon, il est à Madrid. Non,
mais même quand il y a 1m50,
le match était à Madrid.
Même quand il y a 1m50,
c'est peut-être ça. Non,
mais non. Alors, ce qu'il faut.
Parce que le but qui a été refusé au Real Madrid, t'es le premier à dire qu'il y avait faute effectivement sur Kimmich, et donc le but a été refusé.
Lequel?
Il y a un but qui a été refusé pour le Real Madrid.
Donc l'arbitrage a été
pas le premier.
Et le but du Real est refusé. Et le but du Real est refusé.
Au départ.
L'oublier au départ. Oui, c'est grâce au VAR que tu as. Donc, non, mais tu disais parce que tu es à Madrid, donc il donne l'avantage à Madrid. Il y a deux actions précédentes qui prouvent que ça, c'était pas le cas.
Chaque saison, on parle de l'arbitrage avec
le
VAR. Non, c'est faux.
Mais on te parle de soir. Ah, bah, tu n'es pas en train de convoquer des matchs il y a trois ans.
Il y a quand même deux actions qui viennent de t'être données.
Si tu siffles pas, on était d'accord. Moi, j'ai même dit qu'ils vont l'accorder le but.
Mais moi, et on est d'accord.
Si tu ne siffles pas faute de Nacho. Là, on arrête tout, on arrête le football, on passe à autre chose, quoi.
Quand même. Mais oui, mais
c'est tellement logique. Je sous-entends.
Et l'arbitre a fait
pas ce soir.
Je sous-entends, c'est chaque 2-3 matchs de Ligue des Champions, on parle de l'arbitrage avec
d'accord
le Real Madrid.
D'accord avec toi, mais ce soir jusqu'à cette dernière action, pour moi, il n'y a rien qui.
Non, mais si vraiment, il n'y a rien.
Non, mais moi, je suis d'accord avec toi.
Le but qui est accordé.
Il n'y a rien qui avantage le Real ce soir.
Voilà.
Mais quand même, il y a juste un truc qui fait qu'à la sortie, tu étais qualifié, et le Bayern, il rentre chez lui, il est éliminé en
rapport à ta thèse.
Non, mais vous serez peut-être départagé, je l'espère, par l'image.
Voilà, exactement.
Pour qu'on soit. Oui, je l'espère.
J'espère qu'il y aura.
Je l'espère.
Oui, mais certains, ça n'expliquera pas pourquoi il a levé son drapeau.
Absolument. Mais ça permettra d'éviter une polémique énorme. Et tu as raison.
Exactement.
Ils vont déplacer d'une petite.
Ah, parce qu'on est au Real.
Un petit dixième. Ouais. Mais là, maintenant, ils ont quand même tout intérêt à ce qu'on dise, à ce qu'on montre qu'il y avait hors-jeu, quand même.
Ouais.
Parce que sinon, c'est un gros scandale.
Ça ne se joue pas quand même à grand-chose.
Le révélateur, on l'a appris avec toutes ces polémiques de l'arbitrage en Ligue 1, le révélateur peut être, on va dire, ajusté.
Mais oui.
Hein, pour la version. Non, mais
ça
se fait en Ligue 1. Oui. Pourquoi ça ne se ferait pas à l'étage supérieur? On est un peu dans la théorie du complot, mais en tout cas, c'est ce qui se passe parfois en Ligue 1.
Ouais, je veux rester naïf.
Arranger les bidons du copain qui est sur le terrain.
Je veux rester naïf et espérer qu'on n'en arrivera pas là à un tel niveau. Avec un tel enjeu, avec le Bayern de Munich qui va demander des explications de toute façon, qui va reprendre les actions les unes après les autres, ça serait vraiment particulier et dangereux de vouloir s'amuser avec ce genre de choses. Enfin, en tout cas, je le crois.
Non, mais parce que vous partez, partez du principe qu'il y a but qui était valable. Alors que le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il y a eu hors-jeu ou pas. Et là, le problème de l'arbitrage, effectivement, si ça se trouve, l'arbitre, au final, il aura pris la bonne décision, on n'en sait rien. Mais s'il prend une mauvaise décision, l'erreur.
On part du principe qu'il ne doit pas siffler.
Il ne doit pas siffler. Ça, on est d'accord.
Je ne parle pas de ça.
L'action dure deux secondes.
Il a levé son drapeau alors qu'on ne lève jamais son drapeau à ce moment-là.
Oui, mais l'arbitre de touche, il estime qu'il y a hors-jeu. Il est persuadé.
Non, ça n'arrive jamais, ça.
Ça arrive.
Non. C'est au contraire.
Vous expliquez.
C'est au contraire très pénible pour nous tous de les voir laisser le jeu se dérouler alors qu'on a tous vu un hors-jeu de 4 mètres.
Oui, ça oui.
Et pour une fois que cette méthode va aller enfin nous permettre d'avoir la vérité, on la coupe. Donc c'est pour ça. Moi aussi, je trouve ça dommage en réalité.
Ah, mais c'est dommage. On est à la 103e
faute
minute.
D'arbitrage. Après, est-ce que ça a influencé le score? On verra. En revanche, il y a une faute d'arbitrage incroyable.
Absolument. Mais ça n'a peut-être pas influencé le score. On le verra.
Oui, c'est deux choses différentes, en fait.
On est à la 103e minute. Oui. L'arbitre est carbo.
Ah oui, c'est sûr.
Les arbitres sont carbo?
Tout le monde est carbo. Oui, parce que l'intensité est telle. En plus, la manière dont se déroule le match avec ces deux buts du Real de Madrid qui arrivent en quelque sorte de nulle part. Donc oui, ça peut influer sur le sang-froid nécessaire ou le recul nécessaire pour prendre la bonne décision.
Alors l'arbitre Simon Marcignac avait arbitré la dernière finale de la Coupe du Monde. Il avait également arbitré le match PSG-Newcastle avec ce pénalty généreusement accordé, miraculeusement accordé en faveur du Paris Saint-Germain, qui a permis au Paris Saint-Germain de continuer donc son parcours. Et puis du côté, on va dire, des décisions heureuses du côté du Real et de la Ligue des Champions. Je me souviens qu'en 2017, il y avait déjà une demi-finale retour entre le Real et le Bayern. Il y a eu 4-2, une qualification en prolongation du Real. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Arturo Vidal avait été exclu pour un deuxième jaune pour une décision jugée par tout le monde extrêmement sévère. Et Cristiano Ronaldo avait égalisé à deux partout alors qu'il était en position.
Deux buts hors jeu.
Moi, j'en ai qu'un.
La passe de Marcelo à la fin.
Le but est accordé, donc il y a 2-2, je vous rappelle que personne n'est qualifié, personne n'est éliminé. Donc, non, parce que vous sous-entendez quand même grandement sur le plateau, j'ai l'impression que c'était tendance réelle.
On parle d'un cas.
Je veux dire, le match, il y a 2-2, le Real peut encore marquer. Je veux dire, je ne vois pas en quoi le Real a volé sa qualif.
Non, mais on n'est pas en train de dire qu'ils ont volé quoi que ce soit. On ne dit pas que le Bayern aurait été qualifié. On dit juste que si c'est la place du Bayern, c'est le PSG, c'est le plus gros scandale de l'année, quoi.
Voilà. Mmh. En tout cas, la pression.
Non, il faudra savoir.
La pression sur l'arbitre ne pouvait pas être plus importante, puisqu'on part de 0-1 pour arriver finalement à 2-1 à domicile. Ou éventuellement à 2-2, à domicile, à quelques secondes de la fin. Je dis pas que moi, j'ai pas envie de penser ça, mais en tout cas sur la charge émotionnelle, sur les arbitres, énorme.
Ouais. Essaye donc, mais les meilleurs. En demi-finale, c'est les meilleurs.
Oui,
c'est
mais les meilleurs, parce que sur les meilleurs, les meilleurs restent des hommes.
Sur 98 minutes. Je dis pas que ce sont des hommes, mais pas des hommes. Mais là, sur
des
le
humains.
Fait de des humains, mais sur le fait de siffler. Ça, il peut garder encore un peu le sang-froid pour garder 10 ou 15 secondes de plus avant de siffler. C'est ça qui est incompréhensible.
Encore une fois,
alors soit on est dans la théorie du complot.
La soirée n'a pas été spécialement dur en émotion. L'arbitrage n'a pas été
Je vous assure pour l'avoir vécu, c'est extrêmement lourd à porter.
Parce qu'au-delà de le regarder,
quand vous le vivez et quand vous savez que votre décision est susceptible de faire le tour de la Terre et susceptible aussi de jouer en faveur ou en défaveur de votre carrière, l'émotion, la charge émotionnelle, elle est terrible.
Elle est.
Alors, je suis pas là pour le défendre. Je suis juste là que je suis surpris, comme vous, de ne pas avoir vu l'assistant laisser l'action se dérouler, puisque ça nous saoule combien de fois quand il y a de nombreuses secondes qui se séparent. Et là, en l'occurrence, c'est dommage, encore une fois, de ne pas l'avoir laissé.
Saïd, sur le but du 2-1 de Rossellou, alors, il est en jeu au moment où il marque. Mais au moment de la préparation de l'action, il est en position de hors-jeu. L'évolution de la règle fait que les hors-jeux de position, quand on ne fait pas action de jeu, ne sont pas signalés.
Tout à fait.
Je trouve que Rossellou, qui ne fait pas situation de jeu là-dedans, qui fait action de jeu, je trouve que c'est une connerie, finalement, de pas siffler hors-jeu. Il a quand même un temps d'avance, quand même.
Alors, le débat,
au départ, et à l'arrivée.
Le débat, c'est est-ce qu'il tire un avantage de sa position ou pas?
Il y a eu un
débat très important là-dessus. Ça a été tranché. Mmh. Et maintenant, lorsqu'un joueur est en position de hors-jeu, mais pour autant qu'il est très proche du but, on ne le considère pas en position de hors-jeu. Alors, est-ce que c'est bien sanctionnable? Parce qu'il était en position de hors-jeu. Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En tout état de cause, cette règle profite, j'ai envie de dire, aux deux équipes. Là, Rudiger, Rudiger récupère le ballon et puis ensuite il centre et puis le joueur est en retrait du ballon, donc il n'y a pas de, de position de
mort. Ça vous intéresse pas les gars ça?
Si, mais là, je veux dire, c'est une
ce truc-là, ça vous gonfle pas.
Pas du tout.
Non, je ne remettais pas sur cette action, c'est la règle.
Mais j'ai envie de reverser l'argument de Joe sur une qualification classique. Parce que ça fait 10 minutes qu'on parle de l'arbitrage sans savoir s'il y a, il y a une faute technique. Mais je ne sais pas s'il y a faute qui entraîne but du Bayern. Et je par... et on... moi j'ai envie de renverser l'argument de Joe, c'est aussi une qualification classique parce que j'ai encore vu le Real dans toute sa
saison. Oui, c'est une qualification méritée dans quelques minutes. Mais Dominique, c'est ce que je dis dans mon qualification classique. Ouais, c'est une classique.
C'est capable de retourner une situation où on pense qu'ils sont morts.
Mais j'aimerais qu'on parle
de ça. Et après il y a
c'est Neuer qui fait quand même basculer
on débat sur le hors-jeu ou pas. On parle de ça et on pose la question là-dessus. Mais après le classique, il vient aussi dans le fait que le Real même quand on pense qu'ils sont morts, ils sont capables de renverser le truc et de forcer le.
Et je pense que pour les spectateurs qui n'ont pas vu le match, ça serait une erreur de résumer le match à l'arbitrage.
Ben, le classique, pour moi, il vient là-dessus. Ils sont capables de faire ça et en même temps, un petit peu aider.
Et c'est ça qui est le plus marquant sur cette demi-finale, je trouve. Que le Real, une fois de plus, on croit qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts.
Regardez.
Saïd, merci de nous avoir prêté main forte.
Merci.
De nous avoir offert votre lumière.
Merci
de
votre accueil.
Je ne vous raccompagne pas à la grille du parc.
Non. Reviens encore vous.
On a un petit
bonne soirée à tous.
Merci Karine. Tu reviendras pour la finale. Parce qu'il y a le Real.
Eh oui. Le Real donc affrontera le 1er juin prochain à Wembley le Borussia Dortmund. Le Real 2, le Bayern 1. Le Real est en finale. Est-ce que c'est une qualification mérité. On y va ? Habillage à la Madrid. Karine, oui ou non ?
Oui.
Oui ? Hervé ?
Oui.
Oui. Sébastien ?
Elle n'est pas imméritée. Elle n'est pas imméritée.
C'est un oui.
Oui, parce que je n'ai pas envie de...
Dominique ?
Oui, bonsoir, mais c'est une qualification méritée.
Méritée, ok, très bien. Non.
Il n'y a pas de duel, non ?
Non, il n'y a pas de duel, non ?
Il est déçu, Jo.
Moi, je dis quoi ?
Eh ben vous, vous dites quoi ?
Mérité.
C'était vraiment très intéressant.
Merci, Henri,
deuxième question.
Karine.
On a le droit de parler sans se faire mordre, quoi. Par toi.
J'ai dit mérité aussi.
Oui. Moi j'ai l'impression que la qualification est méritée parce que, alors le but de David c'est absolument sublime, mais... sur l'entame de la seconde période, c'était quand même le Real Madrid qui poussait très fort et qui dominait. C'est pas mal. Il y a ce but de Munich qui est magnifique, bravo à eux. Et malheureusement pour le Bayern, leur taulier, l'homme de 38 ans, Manuel Neuer, qui faisait un match énorme, comme très souvent, fait une énorme boulette, parce que ça, c'est une énorme boulette. Et le Real Madrid s'engouffre évidemment dans cette...
Erreur
et égalise, et je trouve ça incroyable, mais c'est le Real aussi, c'est-à-dire qu'un nobody, Rosélu ou Josélu, vous l'appelez comme vous voulez, qui rentre en fin de match et qui finalement renverse cette situation qui était très mal engagée, mais c'est le Real. Et on a bien vu qu'à la fin, évidemment, le Bayern faisait tout pour garder son but d'avance. Le Real a poussé et
il était
intenable.
Tout ce que tu viens de dire est juste à mes yeux, mais il y a aussi une petite erreur pour moi de Thomas Tuchel d'avoir fait un coaching incompréhensible. À
très défensif.
6 ou 7 minutes de la fin.
Je te l'ai dit, un coaching très défensif.
Et il sort Harry Kane, il fait rentrer Eric-Maxime Choupo-Moting sans se soucier d'une éventuelle prolongation.
J'avais noté ça, moi, mais j'avais noté ça dès la 76e minute, lorsque Sané est sorti pour Kim. Alors, il est vrai aussi que sur son banc, si vous remplacez Sané, vous dites, qu'est-ce qu'il a sur son banc ? Il a Mathis Tell ou il a Eric-Maxime Choupo-Moting. Voilà. Mais lui décide
Dominique, je suis d'accord avec toi, mais on s'est tous dit la même chose hier sur le Dortmund-Paris. Il passe une défense à 5 et on se dit, en fait, tu veux bétonner, tu vas te prendre le but, tu n'auras plus d'attaquants s'il y a une prolongation, etc., etc. Et finalement, Dortmund a tenu
1-0. Non, mais il n'y a pas de logique. Je peux te prendre 54, des fois tu joues à 3, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais là, on a quand même la sensation qu'il s'est privé d'atouts offensifs qui faisaient mal au Real. Parce que c'était sur les transitions rapides, sur la vitesse des joueurs de devant qui faisaient mal à ce Real-là. Dès la deuxième mi-temps, on a senti que le Real avait haussé le curseur. En première mi-temps, c'était assez équilibré.
Le but peut-être
début...
valable de Lyre, tu lui donneras sans doute. On saura si le but de Lyre était
valable. Ah, mais on le saura.
Ça lui donnera encore plus de regrets en se disant qu'avec des joueurs un peu plus offensifs, il aurait peut-être fait mieux encore.
Tout à fait. Moi, je suis 100% d'accord. J'ai été surpris de son coaching. On s'est retrouvé avec. Effectivement, Dortmund a fait la même chose, mais il ne faut pas oublier que quand Dortmund l'a fait, c'est là où Paris s'est procuré plein d'occasions. Parce que quand vous mettez 22 joueurs dans une surface, à un moment, il y a toujours une balle qui traîne et vous pouvez toujours marquer.
Et c'est ce que le Real a fait en fin de match.
Et le Real.
Mais c'est toujours risqué. Je trouve, pour un entraîneur, de casser des dynamiques, de casser ou d'accompagner des dynamiques.
Non, et puis, psychologiquement, aux joueurs, vous dites quoi ? Là, d'une certaine manière, c'est maintenant on défend. Ouais. À partir du moment où vous faites rentrer un défenseur pour un attaquant, là, c'est la logique.
T'envoies un message à ton équipe et t'envoies un message à l'adversaire. Ouais, et t'envoies le message aussi à l'adversaire que tu as peur. Et moi, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne solution, mais effectivement, hier, ça a marché.
Il y a toujours un moment où tu craques un peu, quoi.
Pas le souci.
Et Lille, ça a pas marché.
Chavi, il sort la mini-amale sur le rouge de Aroro. Là, ce coaching-là, il envoie un mauvais signal au Real. Alors après, c'est facile parce que je suis aidé par le résultat pour analyser tout ça. Le Paris se qualifie contre.
J'ai posé la question hier, mais le résultat m'a pas. Avec Zule aussi, moi, ça m'avait paru bizarre. Mais voilà,
mais Lisandre
m'a dit. Oui, mais hier, ça passe.
Dit, bah, oui, ça passe.
Aujourd'hui, t'as une erreur de ton gardien à la 89e qui te fait parler différemment. S'il fait pas cette erreur-là, peut-être qu'on dirait.
Mais il y a une certitude quand même.
Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, surtout Kane. Tu sors Kane, c'est quand même assez étonnant, à part s'il a une petite
blessure. Mais on
s'est posé la question.
D'ailleurs, c'est juste un but, tu vas en prolongation, quoi. Donc, tu vois, t'es pas comme hier avec deux buts pour être éliminé.
Sauf si les joueurs sont cuits et qu'à un moment, ça paraît étonnant. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, des fois, on le sait a posteriori.
Mais ça veut dire quand même, tu te dis que si le Real égalise, tu te retrouves complètement démuni devant. Ah là, bah, t'es mort après, devant. Et si t'as encore Mathis Tel qui peut revenir s'il y a une prolongation,
tu peux le faire en monde.
On s'est vu, mes amis, à la pause.
Oui, c'était bien.
La question.
J'ai bien aimé.
Non. Pour la question. Oui, mais justement, je reviens sur ça. On s'est vu à la pause. On s'était dit qui vous a fait la meilleure impression. Dominique, Karine, vous nous disiez c'est plutôt le Real, c'était plutôt des tendances. Sébastien, Hervé et Johan, vous étiez aussi.
Oui, ils voulaient pas se mouiller. Ouais.
Non, mais ils voulaient pas se mouiller, ils n'arrivaient pas à dégager une tendance. Donc on a parlé de la fin du match, mais on n'a pas parlé, on va dire, de l'ensemble de la deuxième, période. Là. La deuxième période, qu'est-ce qui s'est passé?
Racontons-en à nos téléspectateurs. C'est pour ça que parce que je trouve que la deuxième mi-temps, le Real prend le dessus. Elle a beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'occasions et ils se font prendre sur un contre avec une superbe action de Davis. Mais sinon, dans l'ensemble de la deuxième mi-temps, c'est le Real qui pousse pour aller marquer ce but-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est mérité. C'est assez logique que derrière, ils arrivent à remonter le score. Parce que le Bayern, en plus, ce qu'on vient de dire, c'est que les joueurs offensifs sortent. Et là, ils ont subi pendant le dernier quart d'heure, je trouve, vraiment énormément. Et quand tu subis, surtout là-bas à Madrid, souvent ça craque.
Et moi, je trouve que du match s'appelle Manuel Neuer.
Moi, je trouve que je comprends totalement qu'on dise que c'est mérité. C'est globalement mérité parce qu'il y a eu plus d'occasions. Mais je trouve que le Bayern Munich a pendant 75 minutes parfaitement joué comme il fallait jouer contre cette équipe du Real.
Comment ?
Il faut défendre. Tu peux pas continuer à te faire avoir à chaque fois par le Real qui prend pas le jeu et qui te punit en contre. À un moment, il faut les mettre dans une autre filière. Et c'est comme ça qu'ils peuvent être en difficulté. Alors bien sûr, il faut un bon gardien, bien sûr, il faut bien défendre. Mais tu peux les avoir à leur manière, en fait.
Ils t'ont puni alors que...
Ils ont fini, c'est parce que ça a été renversé, parce que tu as vraiment trop reculé à un moment, et que sans doute que le Real était plus fort au final.
Non, il faut être capable aussi de piquer. Parce que quand tu avais Sané, quand tu avais ces joueurs-là, quand tu avais Moussiala, ça te donnait quand même de la profondeur. C'est qu'à un moment, il faut leur montrer aussi qu'il peut leur faire mal.
Et t'as une balle de 2-0 qui finit dans le petit filet pour le Bayern.
Oui.
Mais bien sûr, ils sont à deux doigts. Oui. Moi, je trouve qu'ils ont très bien joué le coup pendant 75 minutes.
Mais il rate une occasion énorme. Hein.
Mais
juste avant l'égalisation, Pavlovic, là, sur le contre, il rate une...
C'est comme ça qu'il faut jouer contre le Real et c'est comme ça que jouera Dortmund.
Donc, jamais ouvrir face au Real.
Mais tu te fais avoir à chaque fois. Alors, vous allez me dire, ce soir aussi, au final, c'est le Real qui passe. Très bien. Mais là, c'est vraiment, ça se joue à rien. On va encore, on a parlé de l'arbitrage, etc.
Certes.
Mais là, moi, je trouve que c'était intelligent de la part du Bayern. On peut le regretter, on peut dire, ah oui, c'est défensif. Il y a un moment, tu vas pas te faire avoir tout le temps de la même manière. Ah, là, ils se sont fait avoir, mais différemment.
Oui, jusqu'à la fin, tu te fais avoir. Pourquoi tu joues pas ton ADN?
Quoi leur ADN, peut-être?
L'ADN du Bayern, c'est plutôt de jouer au foot.
Tu peux piquer aussi.
Pardon, mais sur la première période, lorsque vous donniez un avantage au Real, moi, je voyais, ça a été confirmé par la stratégie, mais je voyais, on va dire, sur des actions placées, le Bayern un peu plus en galère, un style un peu plus heurté que d'habitude face au Real. Est-ce que ce soir, ils n'avaient pas forcément les armes, il y a aussi cette volonté stratégique de Thomas Tuchel, mais ils n'avaient pas forcément les armes pour développer le football que vous étiez en train de louer.
Non, je pense que c'était un choix, moi. Je pense que la tactique de Tourelle, c'était pas de développer du foot ce soir. Justement, c'est ce qu'a dit Seb. C'était très cohérent. C'était de le plan, c'était de les piquer en contre. Alors là où je trouve ça incroyable, c'est que ça ait marché, quoi. Parce que quand Davis marque, on se dit waouh, magnifique. On se dit Tourelle, génial, Neuer, waouh, fantastique. À 38 ans, il est encore le meilleur gardien du monde et ça. Mais bon, ça ne tient pas, quoi. Donc vu que ça ne tient pas, vu qu'à la fin, t'es toujours rattrapé par un principe de réalité.
Très bon.
Autant jouer ton foot. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Okay.
Merci de préciser ton jeu de mots, parce que on n'avait pas compris. 53e minute, le Real, le Bayern part en contre et un mauvais choix de Kane. Il décide de frapper. Ouais. Vous savez, il est à la lutte.
Ouais. Il doit la donner à Sané. Ouais. C'est pas Sané dans l'axe?
Alors, Sané, s'il est dans l'axe, non, c'est plutôt Davis qui est au second poteau, qui est un peu en embuscade.
Mais Sané a juste un retrait aussi.
Oui, mais alors, pour voir Sané,
c'est des génies, les mecs.
Ah ouais, là, faut être. Ouais. Non, mais là, au moment.
Vous voyez tout sur le terrain. Bah, lui, avec Harry Kane. Mais Harry Kane, bon, c'est peut-être pas le même niveau.
C'est un peu en dessous.
Ah, ouais, ouais. C'est ça.
Franchement, il aurait dû la donner à Sané.
C'est Kroos. Non, mais c'est logique. La thèse du deuxième poteau, pourquoi pas.
Ouais,
mais pour moi, Sané, d'ailleurs, il n'était pas content.
Non, il n'était pas très, très content. Donc, l'idée de jouer en contre, c'est aussi d'être létal.
Non, mais ce que j'ai
ultra efficace sur les quelques situations qu'on a.
Ce qui est incroyable, c'est cette histoire, à la fin, de décider de défendre comme ça et de sortir tous ses atouts offensifs en mettant des joueurs, parce qu'un Choupo-Moting, il est grand, et Harry Kane aussi, de la tête, c'est aussi un bon joueur, c'est en mettant aussi de la présence défensive, avoir du poids même sur les coups de pied arrêtés. Mais à un moment, si vous faites jamais mal au Real, et moi je suis tout à fait d'accord avec
Seb. Mais t'as des joueurs offensifs, t'as Müller qui rentre, t'as Choupo-Moting, c'est des joueurs offensifs. Davis
Müller, il court à peu près à 10 km/h.
Oui, alors quand t'avais. Non, mais c'est des joueurs offensifs.
Oui, mais la différence, c'est quand t'avais des joueurs qui étaient capables de jouer dans le dos de la défense du Real, ça oblige les joueurs du Real à faire un peu attention dans leur dos. Müller, sur 15 mètres.
Sur le côté gauche.
Oui, t'as Davis, il en reste un.
Müller peut être un appui.
D'ailleurs, si Müller joue pas ce soir, même s'il est plus indiscutable, mais si Müller joue pas ce soir aussi, c'est parce que, à mon avis en tout cas, Thomas Tuchel avait décidé de jouer comme ça. C'est un vrai choix d'entraîneur.
Oui, c'est un vrai choix.
Et comme Thomas Müller n'est pas le plus rapide, effectivement, tu joues pas avec lui ce soir.
Il avait décidé de jouer comme ça, mais c'est bizarre qu'un entraîneur qui a failli aller trois fois en finale en 4 ans... Il fait cette erreur de coaching
à la fin,
parce qu'il connaît le Real, il connaît le contexte, il connaît.
Les techniciens disent jamais c'est une erreur. Ils disent que c'est un mauvais choix.
C'est un choix.
C'est un choix qui s'est pas avéré payant.
Lui, il sait bien, il a déjà joué des matchs contre le Real. Il a joué au Real, il connaît l'histoire des demi-finales, il sait comment ça se passe.
On a vu trois matchs.
Il garde quand même la possibilité de pouvoir d'avoir un joueur qui peut après chercher des joueurs rapides.
Mais qui à part Davis?
Et avant, il y a qui?
Kane qui est pas ici.
Non, mais Sané, il sort vachement plus tôt.
Sané, Moussiala,
il sort à la 75e.
On a fait trois matchs cette semaine. Trois matchs. Lille-Lyon lundi. Oui. Hier, PSG. Les trois entraîneurs ont fait la même chose.
C'est vrai.
Ça a marché pour
quand? Donc, ça veut dire que quand vous avez des top entraîneurs comme ça qui ont cette idée-là, c'est que c'est pas non plus un truc complètement faux.
Ça, vous dites ça, mais. Tout à l'heure, Sébastien nous disait l'important dans le football aujourd'hui, c'est le dogme, c'est la vitesse. Faut être rapide, avoir cette rapidité. C'est un truc incroyable.
C'est pas que ça.
Autre chose sur ça et sur les tendances d'aujourd'hui. Est-ce que les équipes aujourd'hui, même qui sont surarmées, ont du mal à gérer un avantage, gérer une situation, gérer on les voit parfois ou souvent se décomposer. On parle du Bayern quand même qui est pas l'UFC.
Il se décompose pas.
C'est une erreur de Neuer.
Sur la gestion d'un avantage en fait.
Les entraîneurs pensent ça, mais en fait c'est des mauvaises.
Ça aurait été un peu le cas, non? Quand une équipe doit revenir au score, en général, elle bouscule l'autre, quoi. C'est assez rare. Après, tu peux la prendre en contre et la punir, mais tant que tu arrives pas à mettre ce but-là qui te met à l'abri. Tu subis forcément les attaques, même on a vu hier avec le PSG, au bout d'une heure, les mecs ils ont commencé à y aller. Tu pousses plus et tu essayes d'aller revenir
ensuite. Mais aujourd'hui, il y a plein de tendances. Il y a un break 2-0 et tout ça, et à 2-1, le match est carrément mais relancé en général. Ça a toujours été comme ça. Ah ouais. Moi j'ai l'impression que.
Je me souviens à l'époque, on nous disait même 2 buts d'écart, on ne disait pas regardez le score, pensons à marquer déjà 2-1, et puis après ça va. Tu vois,
j'ai l'impression qu'il y a plus de buts. Fait qu'effectivement, parce qu'on voit beaucoup de matchs à une époque, quand tu menais 2-0, t'avais l'impression que c'était fini.
Ouais, parce que l'adversaire pensait.
Alors qu'aujourd'hui, 2-1, c'est l'inverse. Tu dis, attention, maintenant, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai que le fait qu'il y ait plus de buts, mais plus dans la sécurité les joueurs, de fait.
Deux réactions de deux acteurs, l'un est français, l'autre est allemand, l'un joue au Real et l'autre au Bayern.
Ferland Mendy, c'est toute la force du club cette fin de match. On est très soudés, on se donne ensemble à fond, on peut penser que c'est de la chance, mais c'est tout sauf de la chance d'y arriver encore une fois. Mmh. Et puis l'autre réaction, c'est celle de Thomas Müller qui réagit par rapport au but qui a été refusé, le but hors jeu. La situation était très bizarre. Je serais incapable de dire ce qui s'est passé, mais ça arrive très souvent à Madrid. Ça nous est déjà arrivé. Et là, il évoque le quart de finale retour de 2016-2017 quand Ronaldo a inscrit un triplé. Et il y avait un but, le but du 2-2 qui était hors jeu notamment.
Oui, le but de Cristiano Ronaldo. Après, Mathis Delirte, je ne veux pas dire que le Real a toujours les arbitres avec lui. C'est ce que dit Delirte. Mais ce soir, ça a une grande importance. Bon, il réagit évidemment sous le coup, mais c'est vrai que cette dernière situation, on peut le comprendre. Quand on peut penser qu'ils sont morts, ils ont toujours un dernier souffle. C'est pour ça qu'ils ont.
Mais c'est surtout la fin qui est vraie.
Pour moi, il y a deux joueurs qui sont déterminants sur le deuxième but et qui symbolisent aussi le Real Madrid et ce qu'est le Real Madrid. Quand vous voyez la passe de Nacho, on parle de Nacho. Nacho, peut-être qu'il ne jouerait pas dans aucun autre club du top 20 européen.
Mais je ne comprends pas cette...
Attends, laisse-moi finir quand même. Non.
Non, mais ça, en fait, c'est la musique tout le temps sur Nacho. Je ne comprends pas.
Moi, je pense qu'il ne jouerait pas. Sauf que dans cette équipe-là, il a sa place. Et la passe qu'il donne à Rudiger, elle est fantastique. Et le centre derrière de Rudiger, c'est fantastique aussi. Et ce sont des joueurs... Rudiger, il était très critiqué quand il était à Chelsea. Ouais. C'est un joueur merveilleux depuis 2-3 ans. Et je trouve que ça symbolise aussi ce qu'est le Real Madrid. Après... Johan, sur Nacho...
Nacho n'a pas toujours été titulaire.
Moi, je pense quand même qu'il serait bien fait.
Non, mais je trouve qu'il y a souvent une critique sur lui. Si je ne comprends pas, en fait. C'est un joueur, pour moi, qui... Pour un joueur, ça doit être le plaisir, en fait.
Ouais,
le mets n'importe où, il fait au moins un match moyen.
Les notes de l'équipe du soir dans quelques minutes. Karine.
Comment ?
Quand je parle, bouclez-la. Les notes de l'équipe du soir.
Elle ne sait pas.
Les notes de l'équipe du soir dans quelques minutes sur le site L'Équipe. Allez, à tout de suite. C'est pas grave, Karine, vous
avez.
Nous sommes en débrief de cette deuxième demi-finale de Ligue des Champions. C'était un tifo, un message. C'était juste avant le début du match. El Real Madrid nunca se rinde. Le Real ne se rend jamais.
C'est un message pour Jo.
C'était une bande-annonce de ce qui était arrivé, puisqu'évidemment, le Real s'est qualifié avec un doublé de Joselu à la 88e et 90e minute qui envoie le Real une nouvelle fois en finale. Et puis, sur cette erreur d'arbitrage, Mathis Delirte, le buteur, a été interviewé par un diffuseur. L'arbitre assistant est venu me voir et s'est excusé. Et il m'a confié qu'il avait fait une erreur. L'erreur, c'était d'avoir levé son drapeau et de ne pas avoir tout de suite laissé l'action se dérouler un peu plus longtemps. Chose que vous avez dit avec Sébastien Tarago. C'est bon, on peut passer à
l'action.
C'est bon. C'est génial. Je me suis excusé.
Mais on ne sait toujours pas s'il est hors jeu ou pas.
On est en train de regarder le diffuseur et finalement, il n'y a plus de version officielle. Ce sont les productions internes qui dessinent des lignes de hors jeu.
Donc on saura demain.
Ce qui n'est pas bon signe. En tout cas, il n'y a aucune version. En général, c'est les petites choses sur Twitter qui sont très amusantes. Sur X maintenant, c'est vrai. Désolé.
Tu retiens bien quand c'est X.
Merci, David. Bonsoir. Joselu s'est offert un doublé. Est-ce que c'est un doublé qui le consacre ce soir MVP de la rencontre. Voilà, le doublé et tout ça. Habillage MVP. Et on y va. Karine, vous me dites tout ou non?
Je vous dis Joselu, Ballon d'Or.
Ballon d'Or, oui. Monsieur Penaud.
Je dis pas Ballon d'Or, mais MVP ce soir.
MVP ce soir, oui. Monsieur Tarago.
Oui, évidemment.
Oui, aussi. Et Monsieur Sévrac.
Oui, ça peut se... Oui, si vous voulez.
Oui, c'est eux. Monsieur Micou.
Bah, ouais.
Ouais, forcé de constater. L'UEFA récompensé Joselu, ma chère...
Non, Vinicius.
Ah, c'est Vinicius.
C'est Vinicius.
Ah, c'est Vinicius.
Du match.
Ouais, ouais. Voilà, c'est Vinicius.
Non, c'est logique, Vinicius, sur l'ensemble du match. Mais là, on a rarement vu un joueur qui a impacté autant.
Le MVP, c'est Most Valuable Player, c'est pas sur l'ensemble.
Oui, enfin, c'est celui qui vous qualifie. Oui. Le MVP, c'est Joselu. Alors, c'est vrai qu'il profite d'une frappe de Vinicius. Non, il n'allait pas dans mon sens. Parce qu'il sous-entendait Vinicius, finalement, c'est celui qui était le meilleur.
Il a souvent tendance à accompagner un petit peu le
voilà. Non. Tandis que là...
Il met sa position initiale.
Non. Tandis que là, la position initiale, c'est Joselu qui arrive, qui est là, à l'endroit où il faut,
pour récupérer la balle que Neuer renvoie. Et puis après, pour le deuxième but, il est super bien placé. Et puis il met un but qui donne la qualif. Donc deux buts en quoi il fait 20
minutes
3
minutes.
Non, il est rentré à la 81e.
Oui, c'est
à 88e, il égalise.
Il a joué 15 minutes.
Et 90 plus 1. Il permet
voilà, en gros, il joue 20 minutes. En 20 minutes, il met deux buts.
Qu'est-ce qu'on
Et il qualifie l'équipe.
Après, 10 ballons touchés, deux buts. Sébastien.
Non, mais c'est un joueur qui a une fin de carrière exceptionnelle. Oui, à son âge.
Ah bah oui.
Alors, même s'il n'est pas titulaire au Real Madrid, il marque beaucoup. Ses statistiques, elles sont bonnes. Mmh. En Ligue des Champions, alors bien sûr, il y a le doublé de ce soir, mais c'est 5 buts en 10 matchs. Ouais, il n'est jamais titulaire. Mmh. Et en équipe d'Espagne, il vient d'arriver en équipe d'Espagne, il y a maintenant une petite année, à 34 ans, il a déjà marqué 5 buts en 10 sélections. C'est incroyable, il a un destin incroyable ce garçon.
Virginie, vous êtes intéressée à José Lu.
J'ai quelques petites informations à vous donner pour que vous connaissiez un petit peu mieux.
José Lu de Marseille.
Non, José Lu, du coup. José Lu. Alors, avant cette saison, il n'avait joué aucun match de Ligue des Champions. C'est bien simple. Avant le Real, il n'a joué que dans des clubs de seconde zone. Donc, c'est pour ça aussi. L'Espagnol Barcelone, Alavés, Stoke City, Hanovre. Sa première sélection avec l'Espagne, c'était la saison dernière à 32 ans, 33 par là. Il rentre en jeu contre la Norvège à la 81e minute.
Et il marque.
Match de qualif pour l'Euro et devinez quoi ? Il plante un doublé.
Ah oui.
Il plante un doublé. Là, il est en prêt au Real. Il appartient encore à l'Espagnol Barcelone, club de D2 espagnol. Hein. Et l'option cet été coûtera 1,5 million d'euros. Donc c'est plutôt abordable.
Oui, il est déjà remboursé.
Et Mémé, il est né en Allemagne.
C'est vrai,
bien sûr.
C'est vrai.
Mais j'ai regardé tout à l'heure parce que bon, José Lu.
À Stuttgart, je crois.
Il est exactement.
Ah ouais.
Eh oui.
Ouais.
Moi, c'est la belle histoire du nobody. Quand même.
Ce que je trouve hallucinant, c'est quand il a signé au Real. Tu dis José Lu au Real, franchement, c'est quand même le plus grand club du monde. Ils n'ont pas un joueur. Et en fait, le gars est bon. On a eu un échange avec Nacho également, qui est le remplaçant, qui est un joueur fiable et tout
ça. Nacho, c'est pas du tout la même histoire.
Non, mais c'est un joueur de club qui est extraordinaire. Mais moi, ce qui m'interroge également. C'est des gars qui sortent du banc, qui sont performants. Et ça, au Real, c'est une marque de fabrique. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club ?
Il y a Brahim Diaz, Camavinga qui n'était pas titulaire ce soir. C'est une marque de fabrique depuis très longtemps dans ce club, je trouve.
Mais qu'est-ce qui fait que
particulièrement cette saison.
Mais qu'est-ce qui fait que les remplaçants sont efficaces ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans le projet ?
J'ai envie de vous dire la méthode Carlo Ancelotti, parce que cette saison, il a bricolé quand même énormément. Ah oui. Il a eu beaucoup de blessés, beaucoup de coups durs.
Alaba, Militao, Rudiger,
Courtois, Lounine. Là, il y a une grosse pression en Espagne pour remettre Courtois, parce qu'il est revenu dans le groupe.
Il a joué
un match, le championnat, celui du titre. Et donc là, les gens disent, attendez, Courtois et Lounine, il n'y a pas photo. Mais sauf que Lounine, il sort d'une campagne de Ligue des Champions qui est fantastique. Puis t'as un championnat aussi qui est fantastique. Donc je vous dirais la méthode Carlo Ancelotti.
Non, mais on aime ou on n'aime pas le Real Madrid. Et on peut être agacé par certaines erreurs d'arbitrage depuis quelques années, mais c'est un club. C'est un club qui est tenu. Et ça fait toute la différence. Et les joueurs, à un moment, eux aussi, ils sont portés par cette espèce de chose un petit peu mystique désormais, qui fait que tu te dis que tu n'es jamais battu. Ça existe aussi. À un moment, tu te sens porté. Et c'est normal. Donc les joueurs sont un peu meilleurs que ce qu'ils sont peut-être, ce qu'ils seraient ailleurs. Assez logique.
Tu prends aussi peut-être les joueurs par rapport aussi à leur état d'esprit. Leur qualité, forcément, mais aussi l'état d'esprit qui rentre dans ce que tu veux faire avec ce club-là. Et comme tu dis, je pense que le club, après, il t'amène vers ça. Quoi.
Mais tu vois, tu prends l'attitude de Courtois. Pour moi, il y a une image qui est marquante. Oui, la fin de match, l'attitude de Courtois. Parce que Courtois n'est pas considéré comme le plus...
peut-être jouer la finale de Ligue des Champions.
C'est possible. mais Courtois, c'est quand même pas... Généralement, il n'est pas considéré comme le plus sympathique dans...
C'est pas le plus Courtois.
En général. Mais là, vous avez l'impression...
Il est très sympathique.
Peut-être qu'il est très sympathique, mais en dehors de ça, sur cette image, qu'on le voit, mais il est emporté. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de titulaire. On a l'impression que c'est vraiment un groupe. Et peut-être aussi la gestion. Ouais. Alors c'est vrai que peut-être que lui, en lui-même, il se dit le 1er juin, mais le gars qui sera dans les
Mais après mais c'est bon. Aussi normal. En fait, le terrain efface tout aussi. Il y a des joueurs qui se détestent et qui sont capables de se sauter bien dans les bras. C'est normal. Il y a une euphorie.
Un peu comme pour l'émission.
Ouais. Tout à fait. Alors, c'est l'inverse, non ? C'est pas ça ? Ah non, c'est pas ça.
Moi, déjà, je mettrais les deux joueurs dans deux pots différents. Ça n'a rien à voir. Nacho, c'est l'homme d'un club qui aurait pu partir 20 fois et qui n'est pas parti parce que c'est l'homme du Real Madrid, qui a peu joué et qui aurait beaucoup plus joué dans d'autres clubs parce qu'il y aurait peut-être moins de concurrence. Et cette saison, il joue beaucoup parce qu'il y a notamment beaucoup de blessés. Moi, je suis désolé et j'ai rien contre José Lu, mais c'est peut-être l'homme de la demi-finale. Origi, ça a bien été l'homme de la demi-finale avec Liverpool, non, etc.
C'est pas
donc
vrai. C'est,
bah oui, excuse-moi, non, à 34 ans, depuis un an et demi, il est plus que ça. La sélection espagnole. Donc, j'ai pas l'impression que le Real Madrid nous ait découvert une pépite sur le tard.
Il a été incroyable avec l'Espagnol Barcelone avant de signer au Real Madrid.
Mais d'accord, mais donc ça, ils ont découvert une pépite à 33 ans, le Real.
Laisse-moi finir. Ça fait pas 6 mois. Origi, on peut discuter, quand même. Le nombre de matchs très haut niveau
d'Origi. Origi a marqué un doublé en demi-finale.
Oui, oui, mais les matchs de haut niveau d'Origi, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup quand même. Et Rossellou, ça fait 2 ans et demi désormais qu'il est au très, très haut niveau.
Déjà, ouais, quand tu passes de l'Espagnol au Real, c'est pas le même monde, en fait.
Mais oui, mais il est
bon. Il a gardé sa maison, je crois.
Il est bon. C'est ce que je te dis.
Il va y retourner.
Je veux dire, deux clubs qui n'ont rien à voir, qui ne vivent pas dans le même monde.
Non, mais d'accord, mais alors
t'es aussi d'accord que parfois en Espagne, ils ont eu des problèmes pour trouver des attaquants, qu'ils ont essayé beaucoup de monde, qu'il y avait un problème d'attaque.
Lui aussi, c'est une pompe, alors.
Mais j'ai pas dit que c'était une pompe. Mais là, de me dire que Rossellou, c'est la pépite qui était très
bien. J'ai pas dit ça, moi.
Non, mais Rossellou, ils l'ont pris comme un peu un joueur de complément. Ben oui. Il pensait pas qu'il ferait.
C'est le Choupo-Moting du Real.
C'est, oui. Voilà, voilà. C'était Mariano Diaz à l'époque. Oui. C'est le genre de joueur qui joue peu. Bon, vous le mettez. Oui, mais ce qui est
bien, c'est mieux Mariano Diaz.
Oui, ben c'est ce qu'il a fait. Il a fait mieux.
Ah bah oui, parce que Mariano Diaz, quand il est revenu au Real, c'était un four.
Bah oui,
il est revenu bien. C'est la belle histoire du soir.
Non, Vinicius est-il actuellement le meilleur attaquant du monde? On en parle. Mais ça, juste après la pause, tout de suite.
Il a Mbappé quand même.
C'est l'équipe du soir, nous sommes sous le sortilège du Real Madrid, une nouvelle fois qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Ce sera le 1er juin à Wembley contre le Borussia Dortmund. Ça, je suppose que vous êtes déjà au courant. Dortmund qui s'est qualifié hier. On aura un débat d'ailleurs sur cette élimination. Avec comme biais Kylian Mbappé. Ah. Rendez-vous un petit peu plus tard dans l'équipe du soir. Virginie, juste avant d'activer le Minuit Info. Ce soir, en regardant l'équipe du soir, on peut gagner des cadeaux.
Oui, il n'y a pas une place, pas deux, pas trois, pas quatre. Il y a 5 places de cinéma à gagner pour aller voir L'Esprit Coubertin, sorti en salle aujourd'hui, un film de Jérémy Sa.
Très bonne critique.
C'est des photocopes, non?
Donc le gagnant remportera les 5 places. Ça vous intéresse, que je
raconte? Très bonne critique, je vous dis. Très bien, très bien. Wow. Très bonne critique.
Vous me fatiguez.
Virginie. M'épuisez.
C'est L'Esprit Coubertin.
Virginie, la femme olympique est en France, c'est officiel.
Oui, et à la surprise générale, c'est le rappeur Jul qui s'en est saisi pour allumer le chaudron posé sur la scène du Vieux-Port à Marseille. Il a pris le relais de la championne paralympique Nantenin Keita sur la piste d'athlétisme à laquelle s'est amarré le Belém quelques minutes plus tôt. Florent Manoudou avait la lourde tâche de faire le trajet depuis Athènes avec la torche. Le ballet de la patrouille de France a complété le spectacle. Plus de 100 000 personnes étaient rassemblées pour l'événement.
Ça a beaucoup parlé en rédaction lorsqu'on a vu ça, en disant mais ils n'ont pas un sportif pour allumer la vasque olympique à Marseille. Non, c'est l'idole de Marseille, c'est Jules. Ça vous a choqué ou pas du tout? Non, Karim?
Alors moi j'ai regardé toute la journée,
ouais.
J'ai trouvé que c'était absolument magnifique, des images sublimes, le Belém qui arrivait dans la rade, qui est... fait son entrée dans le port de Marseille. J'ai trouvé que tout était magnifique, les tifos faits par les supporters de l'OM, etc. Pardon?
Non, vas-y.
Oui.
C'est le mai. Là, c'est la hache.
Non, mais la patrouille de France était magnifique. Oui. Florent Manoudou, je trouve que l'histoire était aussi très belle.
On se rapproche.
Après Keita, j'ai trouvé que c'était très magnifique. Là, je ne comprends pas. Et là, c'est le drame.
C'est facile à comprendre, Karine.
Ben non. Non, parce que. Attends, je vais juste finir. Parce que Jules, vous dites, c'est l'idole de tout Marseille. Non, c'est plutôt de la jeunesse. Oui. Il n'y a pas que des jeunes à Marseille, vous voyez. Donc les gens qui ont plus de 40 ans, quoi, ils ne sont pas en adoration et même certains ne connaissent pas Jules. Mmh. Et effectivement, je ne vois pas du tout le rapport entre Jules et l'olympisme, sachant que quand même Marseille est une ville de sport. Il y a eu des champions olympiques ou des champions tout court. Et on nous avait annoncé Zidane, qui n'est pas champion olympique, on est tous d'accord. Mais c'est vrai que de passer de Zidane à Jules...
Ils n'avaient pas annoncé.
Non, mais ils nous avaient annoncé, c'était la rumeur. Donc là, ça a été... le choc et la déception,
bien sûr,
pour moi.
On va donner la parole au chroniqueur avec sa capuche. C'est Tarago.
Alors moi, j'ai découvert Jules. Au départ, c'était une caricature. Et puis après, j'ai vu un vrai reportage sur lui et je me suis dit, où était la caricature? Mais bon, moi, je suis quelqu'un exceptionnel. Je vous jure que c'est vrai. Je jure que c'est vrai.
Mais vous vouliez expliquer
le Malik Bentala.
Ah oui, Malik Bentala.
Une caricature. J'ai commencé en voyant ça, et après j'ai vu un reportage sur Jules. Je me suis dit ah ouais.
Et t'as préféré la caricature.
Non, mais je me suis dit en fait c'est la même chose. Enfin, bon.
Mais vous vouliez expliquer à Karine.
Mais non, parce que Jules, moi je comprends tout à fait Karine, parce que ma première réaction est identique à la sienne, même un peu plus agacée. C'est-à-dire que ça m'énerve. Je me dis mais c'est pas possible. Et puis après, ben, j'essaye de lutter contre moi-même. Et puis, j'essaye de comprendre. Et évidemment que les organisateurs, ils veulent rassembler. Et que s'ils prennent que des sportifs, ben, ça peut exclure une certaine partie de la population. Et que, voilà, ils ont envie de profiter de la notoriété de certaines personnes pour amener le plus de monde possible autour de cet événement. Donc, j'arrive à comprendre. Voilà.
La seule chose, c'est que, comme on ne connaissait pas la personne qui allait allumer la vasque. Donc, de toute façon, ce n'est pas cette personne-là qui a attiré le monde.
Oui,
le
mais monde après, est venu
parce que c'était l'ouverture. Donc, tu pouvais mettre à peu près qui tu voulais.
Mais après, ça fait parler.
Ah oui, mais...
Et donc, il y a des gens qui en entendent parler. Peut-être
moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, je ne connais pas
Jules
spécialement.
La journée était magnifique. Si je suis votre raisonnement, donc, la personne qui sera, on va dire, qui va allumer la vasque au Stade de France...
Karine Galli.
Non, pas Karine Galli.
Si.
Je vais vous dire, c'est Omar Sy. C'est la personnalité préférée des Français.
J'ose espérer que ce sera un sportif.
Oui, mais
évidemment.
Ça va
certainement être un sportif. Il y a combien de porteurs de flammes là sur le sol français?
Non, mais c'est pas la même chose. Oui. C'est-à-dire que évidemment dans les porteurs de flammes il y a plein de gens inconnus. Mmh. On est bien d'accord. Là,
il est connu.
Non, mais ce que je veux dire, il y a des inconnus. Et évidemment, sauf que là, je veux dire, c'était le moment où elle était réellement allumée sur le sol français, en l'occurrence à Marseille. Non, mais c'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'est que en fait,
Jules
ne représente en rien déjà tout Marseille. C'est tout
les personnes ne représentent jamais tout Marseille
et l'Olympisme. Où est le lien? J'aurais voulu qu'il y ait un lien avec le sport ou l'Olympisme.
Il y a un lien avec la fête et avec les Français, en fait, parce que toi, ça te concerne pas, mais ça va être repris sur tous les réseaux sociaux. Tous les gamins vont parler que de ça.
Mais on parle des JO, là, non?
D'accord, mais il s'agit d'en faire une fête populaire. T'as remarqué qu'il y avait quelques réticences. Ça t'a pas échappé. Mais
attends,
et t'as remarqué qu'il y avait des gens qui étaient pas
qui étaient présents aujourd'hui à Marseille. Il y avait 150 000 personnes et c'était magnifique. Et toute la ville était mobilisée. Ce qu'ils ont fait, c'est très grand.
Il faut arriver, ça finit quand les JO? 15 août, 16 août, 18 août?
Non, ça finit en septembre avec les paras.
D'accord. Et puis après les paras.
Cette séquence-là, il faut la préparer. Il faut que jusqu'au bout, ça draine du monde.
Oui. Donc,
il va y avoir peut-être une grève, peut-être avoir un truc.
Je veux dire, Jules pouvait très bien être demain comme Soprano, qui sont des chanteurs qui sont effectivement très populaires chez les jeunes et qui sont marseillais. Mais je trouve que la symbolique. Symbolique de allumer vraiment le chaudron à Marseille. Donc le moment où tu mets le pied sur le sol en France, c'est pas un sportif ou ça quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Olympique, je comprends pas.
Mais ça t'adresse pas à toi.
Oui, c'est un argument qui s'entend.
Oui, bien sûr.
Ça s'entend.
Et on enchaîne avec pas de Final Four pour Monaco, éliminé ce soir par Fenerbahçe en quart de finale de l'Euroleague. Une défaite après prolongation dans le cinquième match, le match décisif.
Oui, la Roca Team a craqué au bout du bout dans une fin de match complètement folle. Le courage d'Eli Okobo et de Mike James dans le Money Time n'a pas suffi. Le premier termine à 15 points, 5 passes. Le deuxième a marqué 20 points ce soir. Monaco a eu la balle de match à 2 secondes du buzzer, mais a perdu le ballon. Défaite 80-79 et c'est Fenerbahçe qui file en demi.
C'est dur, ça.
On revient au football, juste en marge de la qualification du Real. Ce soir, la Fiorentina s'est qualifiée pour la finale de la Ligue Europa Conférence.
Et pourtant, Bruges avait rattrapé le retard du match aller dès la 20e minute grâce à De Kuyper de la tête sur un ballon servi par Van Aken. Il a fallu attendre ensuite la 85e pour voir les Italiens marquer un but sur pénalty et se qualifier après la faute de Michele dans la surface. Son genou touche le visage de l'attaquant ivoirien Zola. C'est facilement transformé par Beltran et la Fiorentina obtient son ticket avec notamment les Français Maxime Lopez et Jonathan Ikoné dans l'effectif.
4 jours de 3 mis à pied après les incidents contre Valenciennes vendredi dernier.
Ce sont les 4 qui ont renvoyé dans les tribunes les fumigènes lancés sur la pelouse par les supporters en colère. Le match a d'ailleurs été arrêté à la 89e minute. Le club a décidé de les sanctionner. Il a pu aussi identifier 9 personnes responsables dans le public grâce aux images de vidéosurveillance. Elles verront leur abonnement résilié plus une interdiction d'accès au stade.
Le Red Star et Habib Bey, ça sera fini à la fin de la saison.
Le coach arrive en fin de contrat et il a annoncé à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas. Le club sacré champion de national il y a 15 jours et premier en Ligue 2 cherche donc son remplaçant et le technicien, lui, est désormais en quête d'un nouveau challenge au plus haut niveau, pour reprendre ses mots.
Cocorico sur le Giro. Attention, Karine, ce n'est pas David Gaudu, hein, puisque David Gaudu ne fait pas le Tour d'Italie.
Le Français Benjamin Thomas a créé la surprise et rafle la mise sur la cinquième étape. Il était dans la bonne échappée, lancé à 80 km de l'arrivée. Victoire disputée au sprint avec un autre Français, Enzo Paleni. C'est lui qui s'est montré le plus rapide. C'est la première victoire de la saison pour la formation Cofidis. Et Pogacar reste leader au général. Le final s'est joué au sprint aussi sur le Tour de Hongrie, avec une chute massive à l'arrivée. Ça s'est passé sur la chaîne L'Équipe, regardez.
Le sprint est lancé maintenant. Le coureur de l'équipe DSM ouvre la route. Les DSM qui lancent le sprint, et c'est Marc Cavendish en personne qui lance le sprint maintenant sur la droite de l'écran avec dans sa roue. Oh, la chute dans le final avec le coureur de l'équipe pour entre Sam Weisford qui vient s'imposer dans l'étape du jour.
Passons au tennis après cette gamelle. Mon fils en prend une et sort d'entrée à Rome.
C'est un tournoi qui lui a rarement réussi, entre absence, défaite trop tôt. Et bien cette édition 2024 n'a pas dérogé à la règle. Il n'a plus gagné un match à Rome. Depuis 2012, il perd 6-2, 7-5, battu par le Brésilien Thiago Monteiro, issu des qualifications. Il a fait trop de fautes directes, 17 au total. Et il enchaîne une deuxième défaite au premier tour après Madrid, à 12 jours seulement du tournoi de Roland-Garros.
D'autres résultats à signaler, à nous montrer?
Oui, on a la victoire de Terence Atman quand même. Ça fait du bien face à Christopher Eubanks. Sa deuxième victoire sur le circuit principal, la deuxième en Masters 1000. Deux top 50 à chaque fois. Il s'impose sur le score de 6-4, 6-4. Et il affrontera l'Italien Lorenzo Muzzetti au prochain tour.
Voilà, on va vous retrouver dans quelques minutes pour les images de la qualification du Real face au Bayern. Mais un petit saut du côté de Bergame. On retrouve notre envoyé spécial Candice Roland. Candice, bonsoir.
Salut mémé.
Ah, j'ai 5 secondes donc d'inertie entre vous et moi. Candice, est-ce que vous avez des informations sur la compo de départ de Jean-Louis Gasset, ou en tout cas quelques réflexions de la part du coach marseillais?
Oui, eh bien, on devrait retrouver ce 3-5-2 revu la semaine dernière. On sait que Samuel Gigot revient, il n'est plus suspendu pour ce match. Donc, on devrait retrouver cette équipe avec Paulo Lopez dans les cages. Bemba, Gigot donc, et Balerdi dans cette défense centrale. On retrouve les pistons à droite, Jonathan Clauss, à gauche, Quentin Merlin. Le milieu de terrain habituel avec Veretout, qu'on aime bien à Rite. Et puis devant, la question est de savoir qui va accompagner Pierre-Emerick Aubameyang. Ce serait Ismaël Assar qui tiendrait la corde pour ce match, comme lors du match aller la semaine dernière.
C'est plutôt du classique, Candice, vous avez relevé des choses en conférence de presse, des phrases fortes, des quelques indices sur le mental marseillais, Candice?
Oui, le mental, eh bien, il y a surtout beaucoup d'envie, que ce soit Jordan Veretout qui était présent ou Jean-Louis Gasset. C'est l'envie, évidemment, eh bien, d'aller chercher cette finale. Beaucoup de joueurs n'ont pas joué de demi-finale. C'est le cas aussi de Jean-Louis Gasset. Ce sera sa première demi. Alors, il a dit, imaginez encore une finale. J'en ai encore moins joué. Donc, forcément, il y a beaucoup d'envie, de concentration aussi. Les joueurs qui ont revu le match aller, qui ont vu aussi le match, face à Salernitana de la part de Bergame lundi. Donc, ils savent comment joue cette équipe, évidemment. Et puis, surtout, corriger, voilà, ce qui n'allait pas. Mais Jean-Louis Gasset a précisé aussi, certes, l'esprit à l'aller était bon, mais il ne suffira pas demain, tout à l'heure, il faudra ce soir réaliser le match parfait, tout simplement, pour aller décrocher cette finale à Dublin.
Offensivement, défensivement, merci beaucoup Candice, très bonne nuit, et puis on vous retrouvera demain pour le débrief. Est-ce qu'on espère une qualification de l'OM pour la finale de la Ligue Europa? Merci, passez une bonne nuit. Vous saluerez pour moi l'homme qui vous fait briller à la caméra, l'excellent Nicolas Chébriand. Hein, oh voilà, le contrat est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Virginie, la qualification du Real en bonsoir. Image. Ouais. 2-1. Rebonsoir ma Virginie. Là, vous êtes prête là. Ah là, vous êtes prête.
Je suis prête là.
Allez, 2-1. Allez, on y va.
Allez, le Real a montré le ton dès la 14e minute. Carvajal sert Vinicius qui croise sa frappe. Le ballon va toucher le poteau. Rodrigo va suivre dans l'axe, mais Neuer était prêt. 40e, Neuer encore intraitable ce soir, qui s'arrache sur le centre-tir de Vinicius pour préserver le score. La transversale d'Harry Kane ensuite pour Alphonso Davies à la 68e permet aux Bavarois d'ouvrir le score d'une frappe puissante. Grosse bourde de Neuer pour le 1-1 à la 88e. La phrase de Vinicius est parée mais pas captée. C'est repris par Rosellou qui tue le match 2 minutes plus tard. Le Bayern marque au bout du bout, mais l'arbitre siffle hors jeu et le but n'est pas accordé. Le Bayern est éliminé et le Bayern sans trophée, c'est une première depuis 2012.
Ok, Vinicius, superstar. Vinicius est-il actuellement le meilleur attaquant du monde, habillage à la brésilienne? Karine, vous me dites oui ou vous me dites non?
J'ai envie de vous dire oui.
Hervé?
Oui.
Oui. Sébastien.
Actuellement, oui.
Oui. Et Dominique.
Il y a attaquant, oui.
Oui.
Il y a marqué joueur.
Hein.
Ah, joueur.
Ah, vous avez mis joueur. Bah, ouais. Meilleur attaquant du monde, oui.
Joueur, oui, ouais, attaquant.
Ouais, joueur, attaquant, voilà. Attaquant plutôt dans l'esprit. Attaquant.
Oui.
Oui, oui.
Bah, il est capable, il est incroyable en ce moment. C'est-à-dire qu'il est capable d'éliminer, de tenir le jeu du Real. À un moment, quand il a Manchester City, il est seul devant, il a 2-3 joueurs sur lui, il est capable de caler les IA, de jouer avec les autres. Il a un coffre phénoménal. Et en plus, il est devenu très efficace. Donc, je vois pas tellement ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en ce qui concerne les attaques.
Il est dégagé de sa zone de confort par Ancelotti pour imaginer cette attaque Bellingham, Rodrigo et Vinicius. Donc, il a dû s'adapter à un nouveau rôle. Donc, il montre une nouvelle palette cette saison qui est vraiment très très intéressante. Quoi. Il fait mal à chaque ballon presque.
Vous trouvez qu'Ancelotti lui a donné une nouvelle zone d'évolution?
Au début, il était quand même très à gauche. Ouais, peu à peu, il s'est réaxé. Déjà, c'est pas que cette année. Hein.
Ouais, voilà.
C'est pas que cette année. Ça a commencé effectivement il y a un an et demi, deux ans. Et là, c'est le schéma de jeu du Real qui a changé totalement. Parce que effectivement, il y a souvent Bellingham en soutien des deux attaquants. Ouais. Donc bien sûr qu'il a toujours cette préférence de partir vers la gauche. Mais ce soir, on l'a par exemple vu totalement à droite pendant plusieurs minutes. Et il est encore capable de faire mal à droite. Et puis alors, en plus de tout ce qui a été dit, c'est que il est absolument insupportable pour les adversaires. Et non, mais ça joue aussi.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que parfois, alors il a été à deux doigts à plusieurs reprises de passer de l'autre côté de la colline et d'être expulsé. Sauf que, alors Johan nous dira que c'est parce qu'il joue au Real Madrid. Sauf que pour l'instant, il est passé à travers les gouttes. Mmh. Et finalement, il en a énervé plus d'un.
Il est truqueur, ouais.
Non, il est très agaçant. Non, mais ouais. Surtout, il parle, il insulte, il est insupportable. Hein.
Ah ouais.
Et ils le détestent tous hein, en Espagne. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de son jeu, il sera à la limite là-dessus. Mais ça apporte aussi un peu de caractère à une équipe parfois.
Et puis.
Pardon. Non, juste ce qui est intéressant, je trouve, dans ce club, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un monstre, on croit qu'il inhibe ou qu'il efface un autre joueur.
Cristiano, en fait, Benzema, Vinicius.
Et quand il part, on s'aperçoit que l'autre est encore plus fort parce qu'il est, en fait, il bénéficie de l'héritage qu'on lui a. Si on m'avait dit Benzema sans Ronaldo, ça ne sera plus rien. Puis, j'ai même vu quelque chose d'assez sympa tout seul.
Oui.
Et je vois que Vinicius sans Benzema, avec qui il a formé un duo qui était génial, ils ont gagné une Ligue des Champions à Paris ensemble. Je trouve que Vinicius sans Benzema, c'est aussi très très fort, quoi. Donc ça veut dire que
Parlons au Stade de France. Non, parce que quand vous avez dit à Paris, c'est vrai qu'il y avait une petite confusion, mais c'était au Stade de France. Mais voilà.
Oui, contre Liverpool, la fameuse qui était mal organisée par la France. Et très très mal organisée. 36 minutes de retard notamment, et les supporters de Liverpool s'en souviennent. Mais donc ça veut dire que voilà, il y a personne qui phagocyte personne, et que le départ, leur talent n'est pas dû que à la présence de quelqu'un de monstrueux à côté d'eux.
Il a des qualités de vitesse, il a des qualités de personnalité, il a aussi beaucoup de justesse, on va dire. Pas pour organiser le jeu, c'est pas non plus un milieu de terrain, mais vous savez, sur le poteau, sur l'action, il me semble, il y a une action qui est initiée par Rodrigo au début du match, que j'ai noté, j'ai plus raison. C'est quand même Vinicius qui commence à faire le décalage.
Ouais,
il est là, il est vraiment, il est dans le registre d'attaquant. Et pas meneur de jeu, mais il est très habile par rapport à ça. Ouais, je le trouve très calme, très habile.
Et vous vous souvenez de Benzema parlant à Ferland Mendy? Et ne lui file pas la balle, parce que de toute façon, il ne sait pas quoi en faire.
C'était il y a quoi? 4 ans, ça?
Pas beaucoup plus.
Il joue contre nous?
Pas tant.
4 ans, 5 ans?
3
ou 4 ans, mais il n'y a pas 10 ans.
Non, il n'y a pas 10 ans. C'est-à-dire qu'il a su progresser.
Benzema est parti il y a 2 ans déjà, là.
2 ans déjà?
Non. Mais c'est la deuxième saison où il n'est plus au Real.
Non, il est parti
l'an dernier. Il était pas.
Il est parti l'an dernier, même.
Il a qu'un an en Arabie Saoudite. C'est juste
la première saison.
Le temps passe vite, ma bonne dame.
C'est Jules qui t'a perturbé.
Jules, c'est autre chose.
C'est la manière qu'il y a 4 ans.
Moi, je pense qu'il peut encore progresser. Il peut encore être meilleur devant le but. Il peut encore marquer plus. Cette saison, il a été blessé. Donc, bien sûr, ces statistiques, elles sont à prendre. Elles sont relativisées.
21 buts, ouais. 35 matchs, 11 passes décisives.
Mais je pense que c'est un garçon qui pourra faire encore plus.
On a l'impression qu'il est
plus efficace encore.
Ce qui me sidère le plus, et je suis désolé, on va reparler de ce qui s'est passé hier, etc., c'est qu'en fait, on nous a certifié qu'en fait, c'était possible dans une équipe qu'il y ait un joueur, voire deux joueurs qui ne travaillent pas pour l'équipe. La réalité, c'est que dans tous les grands clubs, tout le monde travaille. Et Vinicius, c'est une star au Real Madrid. Mmh. Bellingham, il vient d'arriver, mais il a déjà quand même très bien endossé le maillot du Real Madrid. Et il se dépouille de la première à la dernière minute. Et On nous explique qu'en fait, un offensif, il peut pas se dépouiller défensivement parce que sinon il perd de la lucidité devant le but. Ben, c'est faux. Parce que Vinicius, il est partout et au final, il est quand même très efficace. Et Vinicius, et... ou Bellingham, mais là, on parle de Vinicius. C'est quand même une leçon pour tout le monde.
Qui t'explique ça? Puisque j'ai entendu le entraîneur du PSG la veille en conférence de presse dire même les stars mondiales doivent défendre. Donc qui te l'explique ça?
Bon, enfin, Mbappé, dès qu'il défend pas, tout le monde, globalement, l'excuse en disant il est pas là pour défendre, il est là pour marquer des buts. Mais en fait, tous les joueurs à City y défendent, tous les joueurs au Real y défendent, tous les joueurs au Bayern y défendent. Alors, et c'est ça aussi qui t'amène à la victoire finale. Et Vinicius,
Karine, il fait des choses
que Kylian Mbappé fait quasiment jamais. Et au Real Madrid, il va devoir les faire.
Non,
Mbappé,
mais ce qui va être intéressant. Avec ses qualités, hein, surtout. Je trouve qu'il joue avec ses qualités, Vinicius. Il sait prendre la profondeur, il sait aller provoquer rapidement pour être juste en un contre un. Il est capable, quand il y a du monde, d'aller chercher d'autres coéquipiers qui sont libres.
J'ai pensé à vous, en regardant le match de Vinicius, que ce soir, par rapport à Mbappé, dès le premier contrôle, je provoque. Dès le premier contrôle,
Il met en difficulté rapidement le gars qui vient à la lutte avec lui. Donc c'est où il va le passer, ou s'il voit que c'est encombré, hop, il cherche une autre solution, et il demande derrière. Il repropose une solution vers le but. Parce que je pense que face à lui, c'est un enfer de défendre parce que tu sais jamais trop où
il a des petits appuis en plus.
Ah oui, oui.
Hein, vous savez,
il est très explosif. Mais la question que tu te poses, ouais, parce que tu déflores le sujet finalement, si Mbappé va là-bas, ce qui est quand même un secret visiblement de Polichinelle, ça veut dire quand même qu'il y aura un combat des chefs. Parce que vous avez Vinicius, Rodrigo, les deux, ils sont deux potes brésiliens. Quand ils voient arriver Mbappé, ils vont pas l'accueillir avec des fleurs. Ils vont pas dire tiens, tu vas prendre une de nos places. Certainement pas. Donc ça veut dire qu'Mbappé, pour venir dans cet univers-là, ça va pas être simple, il va falloir se faire sa place. Et quand, en plus, la zone d'expression de Vinicius est plus ou moins la même que celle d'Mbappé, il y aura combat.
La solution nous avait été donnée par Dominique Sévrac, Vinicius partant.
Exfiltrer
Vinicius.
Ouais, exfiltrer Vinicius. Donc t'exfiltres celui que tu annonces comme le meilleur attaquant du monde actuel.
Il y a Hendrik qui arrive aussi.
Il est jeune,
certes. Oui, il est jeune. La saison passée, la saison prochaine, ça ira.
Mais après, comme Karine l'a dit, il y avait Benzema il n'y a pas très longtemps, tu sais, ça ne posait pas de problème. Il y avait Rodrigo qui était plutôt sur le banc. En vrai, ce n'était pas le même Rodrigo, il a explosé.
Et Rodrigo, de la même manière, progresse comme Vinicius a progressé. Et en plus, on...
Non, mais c'est surtout un vrai sujet tactique. C'est-à-dire que là, ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Qui va occuper un peu cette zone d'axe gauche, sachant que Bellingham aime beaucoup aussi s'y balader, que parfois d'ailleurs cette saison il a joué à gauche aussi, notamment en début de saison, c'est arrivé plusieurs fois. Ça va être très intéressant de voir comment Carlo Ancelotti va s'en sortir.
Tu dis Vinicius donne des balles, oui c'est vrai, il en donne parfois, mais il aime bien provoquer, prendre la balle. Mbappé, c'est logiquement un joueur à qui on doit donner la balle assez vite. Il ne va peut-être pas lui donner aussi vite qu'il pourrait la recevoir. Donc, je pense que ça va être... Pour Ancelotti, ça va être un sacré... C'est passionnant. J'ai hâte de voir comment Ancelotti va se débrouiller.
Le meilleur attaquant du monde.
C'est la photo de ce moment, et vous avez raison, Karine et Jo, vous avez raison. C'est meilleur que Mbappé, mais c'est la photo de cette saison. J'ai fait beaucoup de débats où Vinicius n'était pas aussi considéré qu'aujourd'hui, où Mbappé à l'époque était largement au-dessus.
Il y a longtemps.
Je sais pas,
il y a 2-3 ans.
Mbappé, il n'a pas non plus 112 ans.
Non, mais il y a 2-3 ans, c'était.
Oui, d'accord.
On pensait que Vinicius était en dessous. Mais
ça veut dire que ce n'est pas figé, quoi. C'est pas figé.
C'est la photo
d'aujourd'hui. Là, il y a marqué actuellement.
Là, tu dis des choses définitives.
Non, mais il faut
défendre. Dans tous les clubs, ils attaquent en défendre.
Oui, mais ça, oui. Mais Dominique, en fait,
j'entendais pas ça il y a 2 ans. Mais il y a 3 ans, on le voit quand même. Vinicius, tu n'en parlais jamais, quoi. Tu t'en foutais complètement.
Mais Vinicius, quand il n'était effectivement pas un joueur majeur du Real Madrid et que c'était un espoir, parce que c'est peut-être le nouveau Neymar, c'était pas un joueur aussi important. Vinicius, il est devenu un joueur qui était traité de joueur à qui il ne faut pas passer le ballon, à un joueur qui est titulaire indiscutable au Real Madrid. Donc effectivement, mais lui, ce qui est bluffant, c'est que sa progression, elle est constante. C'est qu'il est arrivé avec le maillot du Real Madrid, il a mis du temps à effectivement endosser le costume, mais il n'a pas fermement endossé, et que maintenant, il fait partie des leaders d'attaque du Real Madrid. Ça, c'est bluffant. Et j'aimerais vraiment qu'on retrouve l'année du truc de Benzema. Moi, je pense que c'est plus vieux, mais bon, bref. Au Real Madrid, que ce soit Vinicius ou un autre, en fait, ils bossent tous. Voilà, c'est ça la réalité aussi. Et Vinicius, il va pas apprendre le foot à Mbappé, on est bien d'accord.
J'ai lu plein d'articles de Marca.
Que ce soit Rodrigo, Vinicius ou même Bellingham,
Il joue pour l'équipe, d'accord. Il se dépouille.
Ça, ça, c'est ton constat d'aujourd'hui du 9 mai. Mais j'ai lu plein d'articles de Marca et As où on disait que Vinicius ne défendait pas.
Et la presse espagnole, quand il ne défendait pas, soit il était sorti, soit il ne jouait pas, soit le Real perdait.
J'aime pas qu'on fasse une photo en disant c'est comme ça depuis 10 ans. Vinicius est extraordinaire et Mbappé, c'est
pas dit. Mais je t'ai pas dit que Vinicius était génial depuis 10 ans.
On ne compare pas là. Là, on n'est pas.
Il y a que toi. C'est elle qui a comparé. C'est Karine qui a commencé en disant je ne voudrais pas revenir arrière. Mais
ça fait quand même 2-3 ans qu'il a ce niveau-là, Vinicius.
2-3 ans, c'est pas non plus une carrière. Quoi.
Ah non, il a quel âge ? Quel âge il a, Vinicius ? 21, 22 ?
Un peu plus.
Un petit peu plus.
Non, mais le principal, de toute façon, c'est surtout que ta progression soit constante.
À force d'être jeune.
23. Les notes de l'équipe du soir, Vinicius, on va le noter dans quelques secondes. Pour l'heure, donc, ce match a été marqué par une polémique et une erreur d'arbitrage, oui. À la fin de la rencontre en défaveur du Bayern. Et il y a une passe d'armes en conférence de presse entre Ancelotti et Thomas Tuchel. C'est bien ça, Virginie.
Petite passe d'armes, effectivement. Thomas Tuchel qui est très énervé, bien sûr. La décision du corps arbitral a été désastreuse dans le temps additionnel. L'arbitre de touche s'est excusé, mais cela ne nous aide pas. L'arbitre n'avait pas à siffler. C'est une très, très mauvaise décision. Mais que répond Carlo Ancelotti à cela ?
Good job.
Il répond : le Bayern se plaint du hors-jeu. Ok, alors on se plaint du but refusé à Nacho parce que Kimmich a plongé.
Là, il est vraiment de très très mauvaise foi. Là, il est très mauvaise foi. Bah, c'est Nacho qui pousse Kimmich sur le.
Ah ouais, mais c'est pas son genre, Ancelotti, d'habitude.
Non, mais je pense que Tuchel, il doit énerver certains.
Bon, il était calme à la fin du match.
Oui, mais enfin bon, il a quelques attitudes.
Les notes de l'équipe du soir.
Pardon, c'est octobre 2020.
Octobre 2020.
Quand Benzema dit à Mendy, surtout passe pas la balle en
lui. Ça fait 3 ans et demi.
Oui, non, mais je voulais savoir la date.
Octobre 2020.
Comment tu as fait pour savoir ça?
C'est de tête. C'est de tête.
L'oreillette.
Les notes de l'équipe du soir, mes amis. Les notes de l'équipe du soir. Non, non, c'était la mémoire. La mémoire. C'était pas le téléphone.
Non, c'était l'oreillette. C'est une oreillette comme vous.
Ok, d'accord, très très bien.
Bon, on aimerait qu'elle intervienne plus souvent.
Karine !
Comment ?
Vous m'avez pris pour un jambon.
Pas du tout, j'ai une oreillette, mais écoutez, vous connaissez la télé quand même.
Les notes de l'équipe.
C'est pour les jeux. Ah, mais il n'y a pas de jeu ?
On note Vinicius. Vinicius, moi, sa note est de 6.
Hein ? Quoi ? À qui ?
Par qui ? Vinicius.
Ah, Bellingham.
C'est la note moyenne des téléspectateurs de l'équipe.
C'est qui, Bellingham ?
Ah, Jude Bellingham. Jude Bellingham, on est en train de parler de Vinicius, vous mettez du Bellingham, les copains. Et 6-7, information de la radio Copé, avant la rencontre, l'anglais était infiltré au genou.
Ouais, je lui enlève un point, parce que j'aime pas ça.
Tu devrais justement le féliciter de s'être dépouillé pour son équipe.
Qu'est-ce qu'il a pris comme produit, on sait pas.
Non, mais
ça, il faut que je fasse attention.
Non, mais ça fait dommage. Mais bon.
Bellingham, donc vous m'avez dit 5.
C'est un peu sévère, 5. C'est un peu sévère.
5 et demi.
Mais parce que c'est quand même un match de très haut niveau.
Oui. Puis ils se sont
fait. Je l'ai trouvé peu influent aujourd'hui. Par rapport à d'habitude, surtout, évidemment.
Il a travaillé pour l'équipe.
Oui. La courroie de transmission là, de Bellingham par rapport à Rodrigo et par rapport à Vinicius.
Ouais, non, c'est pas un grand match, mais je trouve qu'il se met
au service.
Ouais, au service de l'équipe. Il va, mais après, ouais, on attend un peu plus de lui offensivement quand même.
Mais ça fait déjà de quelques semaines qu'il coince, hein. Ouais, depuis sa blessure là, sa blessure au classique.
Même quoi, c'est quand même un match janvier, fait un moment.
Mais je crois qu'il a, en plus, je crois qu'il a été infiltré avant le match.
Merci. Non, mais peut-être qu'on a Vinicius a diffusé, vous n'avez pas
très mal habitué quoi.
Vinicius à présent, on le note. Vinicius, sa note moyenne est de, ça monte, 7,4. Voilà. 7, 8.
8.
En fait, c'est.
J'ai mis 6 à Bellingham.
Il n'a pas marqué. En fait, c'est Neuer que vous louez, en fait.
Pour des cas.
Non.
Là, le 8, c'est un très bon match.
Non, mais il fait peur à toute la défense du Bayern. C'est lui qui change quand même le cours du match. Avec sa frappe, évidemment. Neuer fait une erreur, mais enfin, il fallait frapper. Il l'a fait. Après, il a quand même l'action. Neuer enlève la balle. Incroyable. Pourquoi je mets 8 aussi? Parce que moi, vous savez, les notes, c'est en fonction des uns et des autres. Si je mets 6 à Bellingham. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même une vraie différence.
C'est pour ça que tu aurais dû mettre 5 à Bellingham.
Voilà. Alors, comme au final, on a quand même vu un match super, je préfère les mettre un peu plus haut qu'un peu plus bas. Sinon, ça aurait fait 5 et 7. Donc, hop. Et comme ça, je mettrais entre les deux Rodrigo. Vous voyez ?
Ok.
J'ai mis entre 7 et 8. 7,5, c'était 7,4.
Non, mais il n'y a pas de demi-point là. Faites pas le 7, 8.
8 alors.
8. Voilà. Bon.
Je préfère saluer la performance. Intéressant, surtout poison pour. Tous les ballons, il est encore impactant à la fin du match. Ça s'arrête jamais. En fait, dès qu'il se passe quelque chose à chaque fois qu'il a le ballon, quoi.
C'est vrai.
Et c'est un joueur que tout le monde connaît. Et le Bayern n'est pas arrivé à le prendre, n'est pas arrivé à le cadenasser. Il y a des joueurs que tout le monde connaît qui ont moins d'influence.
Ça arrive à mettre des 8 aux gars qui ne marquent pas.
Bien. Ouais, tout à fait. Mmh. Non, on juge le contenu, non ?
Non, mais c'est vrai que toi, d'habitude, tu es assez obsédé par les stats.
Oui, il aurait marqué.
Un peu le fan de NBA.
Virginie, Vinicius a réagi sur son compte X.
Il a très vite posté un petit message sur, j'allais dire, Twitter. Oui, c'est vrai que c'est X maintenant.
X, ouais.
Regardez, il a posté encore ce camp, encore ce maillot. Merci, président, de m'avoir amené au plus grand, dans le plus grand club du monde. J'ai mis la traduction, évidemment, je ne parle pas portugais.
Oui.
Voilà. Bah, ça se voit.
OK.
Oh, vous êtes.
On note Manuel Neuer. Alors, Manuel Neuer, il a été fantastique. Difficile. Il a été très fantastique. Difficile. Et puis, à 3, vous l'assaisonnez comme ça.
C'est très dur.
Ah, là, vous êtes dur, là.
Hein. J'ai fait comme toi.
3, c'est très mauvais. 3, c'est mauvais.
Ah, ben.
Karine.
C'est Manuel Neuer, l'un des plus grands gardiens. Il a été parfait jusqu'à cette 89e minute qui change tout, qui change absolument tout parce que le Real, déjà, il fait une vraie boulette et le Real égalise et le rouleau compresseur, il est inarrêtable. Et malheureusement, même si tout ce qu'il a fait avant, il est très bien, eh ben, il coûte la qualif à son équipe. Ce soir, il rentre à Munich, il pleure. Oh, et comme l'a dit Virginie, en première fois depuis 2012 que le Bayern n'a pas de trophée. Et ça, c'est vraiment...
Comment
pas la qualif. Parce que, sur ce but, ils égalisent.
Oui, sauf c'est que ça y est, encore. Le Real Madrid, tu leur lui lâches ça.
Mais non, mais Karine, après, peut te renverser les arguments en te disant que sans lui, il y aurait eu 1-0 bien plus tôt. Qu'évidemment, il a sa part
c'est très dur.
Dans ce match. Donc 3, c'est incroyable. C'est
il coûte la qualif pour moi.
Pardon ?
C'est quelqu'un de dur. Quand même.
Je suis très dur, bien sûr.
Mais c'est une femme méchante.
Ouais. Je suis très méchante. Et j'adore Neuer, mais là, ce soir, il fait une erreur.
Mais franchement, il fait un match incroyable pendant 7 minutes.
Et oui, mais le match dure 90.
Voire 103, même.
Ok. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, point final.
Mais non, mais je pense que même Neuer se dit. C'est pour moi ce soir.
Et je trouve que c'est dur de mettre en dessous de la moyenne.
Pardon, mais je relance avec d'autres, chroniqueurs.
Parce que
Hervé, Sébastien et le président, vous lui avez mis la moyenne. Et Dominique, vous ne lui mettez pas la moyenne.
Parce que Hervé dit, je ne comprends pas qu'on ne lui mette pas la moyenne, mais je crois que ceux qui notent mettent un point de plus ou un point pour une passe décisive ou pour un but. Et donc, quand tu coûtes aussi un but, tu es obligé à un moment donné de retrancher aussi des points.
Donc il avait 5 avant.
Donc,
avant son erreur, il avait 5.
Il n'avait pas 5.
Tu enlèves 4 points, toi.
Mais non, mais donc il est passé de 8 à 4.
Cette erreur-là, elle est colossale. Elle relance complètement Madrid.
Non, mais t'es quasiment. Tu lui aurais mis combien s'il ne fait pas l'erreur ? 9 ?
8. Donc il a perdu 8
à 4. Attends, il aurait pu avoir 9. Si non, pas l'erreur.
Dominique. Non, attendez. Attends, on a Dominique.
Dominique
non,
des
non, non,
il est dans les cordes.
Dominique.
Il est cuit, là.
Vous nous dites que.
Il est cuit.
Vous nous dites qu'on enlève un point. On enlève un point à quelqu'un.
Parisien. Je dis qu'on met des points. Ceux qui mettent des buts et des
vous êtes passé de 8. Vous êtes passé de 8. 8 moins 1.
Égal 4.
Égal 4. Expliquez-nous, Dominique, maintenant.
C'est cette erreur, elle est colossale. Ça, c'est 3 points, c'est 4 points, c'est autant de points que vous voulez. Parce que ça relance complètement le Real Madrid qui n'aurait pas dû. À ce moment-là, marqué, qui était fini, qui était mort. Une fois, ça va s'arrêter de toujours se réveiller. Donc, cette erreur, elle est colossale. Elle a un impact
considérable. Non, elle est colossale.
Elle a un impact considérable. Donc, elle vaut que 3 points, 4 points, 5 points.
Évidemment.
Je trouve que le 5, avec Amélie, le libellé, le 5, mais avec.
C'est pas tranché.
C'est un peu focus, c'est ça ?
Tu tranches pas ?
Ouais, en fait, ouais.
Je comprends cet argument.
Mais on peut mettre 6, c'est un match moyen. C'est surtout pas un match moyen qui nous a fait.
Non, mais après, tu expliques.
Ouais.
Voilà. Tu expliques qu'il fait un énorme match. Mais sa boulette, le coup
de
sa
boulette. Il y a le timing de la boulette.
Mais pourquoi on est toujours obligé de trancher ? On est toujours obligé de dire le mec est nul ou le mec est super bon. Ça, c'est quand même extraordinaire.
Il n'est pas moyen.
Mais c'est pas possible.
Il n'est pas moyen ce soir.
On ne dit pas qu'il est nul. Au final, il est moyen.
Mais il ne coûte pas la qualif.
Mais
il coûte pas la qualif.
Mais oui, si c'est le Real.
Si c'est le deuxième but, je te dis oui.
Mais non,
c'est le deuxième.
Le Real est éliminé.
Karine, on est à la
88e.
Mais alors, t'es pas éliminé. Le Bayern, ils pensent qu'ils sont qualifiés.
J'ai une question.
Attendez, il y a deux débats qui se font en direct. Tout d'abord, Sébastien.
J'ai une question
Karine.
Pour Karine et Dominique. Donc, si Vinicius met 4 buts, et qu'à la 89e minute, il glisse, il donne un but à l'adversaire et que son équipe se fait éliminer, tu lui mets 4 alors. Tu lui mets 3, pardon.
Pas du tout.
Ah bon.
Bah attends,
c'est quoi la différence ?
La grande différence, c'est qu'un gardien, il a quelques arrêts exceptionnels à faire. comme Courtois, comme Neuer, comme Oblak à une époque, etc. Et si il coûte un but à son équipe qui a une incidence énorme, il est le principal fautif. Et donc pour moi, Neuer, s'il fait cette boulette à la deuxième minute, et que derrière il fait plein d'arrêts et que le Bayern s'en sort, on l'a oublié la boulette. Là, il fait la boulette juste avant la fin du match, à la 87e minute, et tu donnes la balle pour te faire tuer. Et le Real s'en sort, évidemment.
Donc tu ne juges pas son match.
L'incidence de sa boulette. Parce que malheureusement, tout ce qu'il a fait avant, c'est oublié.
Tu peux regarder le match.
Je ne vois pas pourquoi 5, ça serait plus.
Moi, honnêtement, j'ai même hésité un moment avec 6. C'est pour te dire. Parce que c'est vrai que tu peux lui enlever des points sur l'arrêt. Mais s'ils sont plombés, avant, tu vois. Le double.
Dans quelques minutes, on va repartir au Real. Antoine Simonneau, notre correspondant à Madrid, est connecté. On va papoter avec lui
sur
cette qualification miraculeuse ou cette qualification classique du Real. A tout de suite, mes amis. Allez, on express cette dernière ligne droite de l'équipe du soir. La une de l'équipe, Virginie Saint-Cély.
Souffle olympique avec l'arrivée de la flamme olympique à Marseille aujourd'hui. Le Vieux-Port, je précise, je rappelle même
sublime.
Que le rappeur Jules a allumé le chaudron.
C'est magnifique.
Ça, c'est la seule faute de goût.
Atalanta OM. Si l'OM bat demain l'Atalanta Bergame, l'OM ralliera la finale de la Ligue Europa. Jeudi dernier, Pierre-Emerick Aubameyang manque la balle du 1 à la 42e minute. On en parle évidemment de ce rendez-vous dans quelques minutes. Mais pour l'heure, chose promise, chose due, nous avons notre correspondant à Madrid, Antoine Simonneau, qui a vu une qualification du Real. Et Antoine, vous êtes là. Bonsoir, mon cher Antoine.
Buenas noches, mémé.
Et Antoine, juste une partie sur l'ambiance, puisque vous étiez au match. Jusqu'à la 88e minute, quelle était, on va dire, l'atmosphère au stade Santiago Bernabéu? Racontez-nous peut-être ce moment de basculement, mais racontez-nous.
Bah, elle était comme d'habitude, c'est-à-dire que ça ne faisait pas beaucoup de bruit. Les supporters merengues sont, j'allais dire, des enfants gâtés. Et ce sont plus, comme souvent dans les stades espagnols, des spectateurs qu'autre chose. Donc ils attendent généralement qu'on marque un but pour s'emballer. Et après, c'est vrai que, comme lors de chaque remontada ces dernières années en Ligue des Champions, quand il y a l'égalisation de Rossellou, ça fait un vacarme assourdissant et après ça ne s'arrête plus, quoi. C'est une ambiance complètement folle, complètement survoltée. Et on se dit justement qu'avec cette ambiance-là, avec la culture, l'ADN aussi du Real Madrid, de cette équipe-là, on dit que ça y est, le match a basculé et que forcément il va y avoir un deuxième but, c'est ce qui est arrivé, quoi.
Antoine, votre micro crépite un petit peu. Je pense que voilà, ça va frotter sur votre joli chandail, mon cher Antoine. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez un chandail. Vous voulez décerner votre tiercé pour cette rencontre. Le premier, c'est Rossellou. Rossellou, auteur d'un doublé ce soir.
Ouais, Rossellou, c'est ses premiers matchs de Ligue des Champions. C'est sa première saison en Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui est prêté un an avec option d'achat et qui a été... alors c'est un prêt payant de 500 000 euros seulement. C'est quelqu'un qui était là pour être le remplaçant de Karim Benzema et qui a profité finalement du départ du Français pour gratter du temps de jeu, qui a mis beaucoup de buts cette saison, 17 je crois, toutes compétitions confondues. Et là, il entre directement dans la légende du Real Madrid, donc c'est quelque chose d'assez inespéré. En plus, c'est un attaquant assez à l'ancienne. C'est quelqu'un qui techniquement, par exemple, par rapport au reste de l'équipe, est très très limité, mais c'est un vrai buteur. C'est quelqu'un qui a un bon jeu de tête et qui est toujours là, comme on l'a vu sur son doublé ce soir, près de la surface à rôder. Et il est récompensé, j'allais dire, de sa belle saison et de son altruisme.
Après Rossellou, Manuel Neuer.
Ouais, Manuel Neuer qui est pour moi l'autre grand bonhomme du match avec Vinicius qui permet au Bayern de rester dans le match. Il fait des parades sensationnelles et puis qui commet la bourde qui finalement coûte la qualification à son équipe. Donc c'est vraiment un match très contrasté, mais il avait été excellent jusque-là. Et puis après, il y a aussi Vinicius Junior qui pour moi a été l'homme du match et qui est depuis un petit moment, je pense, très au-dessus de tout le monde. Ça a été un poison constant. Et si je peux me permettre, Mémé, il faut aussi souligner la performance d'un Français dont on ne parle pas souvent, mais moi, ça fait plusieurs saisons que je le vois. Il est toujours titulaire indiscutable dans les grands matchs. C'est Ferland Mendy, qui pour moi a été défensivement, encore une fois, exceptionnel. Et je comprends toujours pas qu'il ait pas d'offre de prolongation au Real et qu'il soit même plus préconvoqué en équipe de France.
Ça pourra peut-être changer avec la blessure longue durée de Lucas Hernandez. On n'a pas évoqué.
Il y a des raisons que c'est intéressant. Quand même. Ouais. On en reparlera peut-être tout à l'heure.
Ouais. Juste, on n'a pas évoqué la finale à Wembley. L'ambiance générale, c'est quoi? Donc Real Dortmund, c'est la 15e là, qui est déjà accrochée. C'est comme ça que vivent les supporters du Real.
Ouais, ils sont forcément favoris, mais hein, avec leur palmarès, avec leur équipe qui est quand même supérieure, je pense, individuellement et collectivement. Après une finale, les supporters du Real, ils savent que ça peut aussi basculer contre n'importe quel adversaire. Donc ils y vont confiants, bien évidemment. Et ils ont un peu, ils ont un peu de lassitude, je pense même. Quand il y a deux ans, ils avaient gagné. Contre Liverpool, ils disent ouais, on est habitué, ils célébraient ça, mais de manière plutôt gentille. Voilà, c'est des enfants gâtés. Voilà, ouais. On va dire.
Ok, merci beaucoup. Oui, vu de chez nous, oui, ça paraît incroyable. Merci beaucoup, Antoine. Très bonne soirée, très bonne nuit du côté du Real. Hasta luego, à toi-même aussi, oui. Atalanta OM, on reprend le cours de notre rivière.
Ferland Mendy, ça intéresse les gens, quand même. Ouais. L'équipe de France.
Ouais.
Concrètement, le staff de l'équipe de France apprécie peu ce garçon, considère qu'il n'a pas toujours montré un état d'esprit positif lorsqu'il est venu, et c'est pour ça qu'ils ne le prenaient pas. Ils ont raison, ils ont tort, peu importe, mais c'est l'explication, et peut-être que là, avec la blessure d'Hernandez, il reviendra.
Ok. Atalanta OM, si l'OM bat demain, donc l'Atalanta Bergame, l'OM ralliera la finale de Ligue Europa. Et encore faut-il que Pierre-Emerick Aubameyang conclut les occasions, ce qui n'était pas le cas jeudi dernier. Jordan Veretout, en conférence de presse, a confiance en son buteur. Écoutons-le.
Aubameyang est un joueur exceptionnel, un coéquipier formidable aussi. Il nous conseille par son expérience. Déjà d'une, on lui en veut pas du tout sur l'occasion. Je pense que sur toute l'année, il nous a montré de quoi il était capable. On a confiance en lui. Il nous apporte beaucoup et demain il fera le match parfait pour nous emmener en finale.
La qualification de l'OM dépend-elle du match de Pierre-Emerick Aubameyang dans le Ville-Peuple, mon cher Johan? Bonsoir. Vous m'avez tous répondu non. Vous m'avez tous répondu non, ça ne dépend pas en priorité de Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi? Expliquez-moi, prenez-moi par la main parce que ouais, j'ai l'impression quand même que c'est...
Première chose déjà, il ne faut pas prendre de but. C'est aussi bête que ça.
Bien défendre, c'est rester en vie.
C'est rester en vie. Marquer, c'est au moins rester en vie jusqu'à même au tir au but, si vous voulez. En gros.
Marquer, c'est peut-être aussi gagner.
Oui, mais marquer, si c'est se découvrir et prendre trop de risques. Mais je pense que Jean-Louis Gasset, il sait très bien que de toute façon, ce qu'il va falloir, c'est déjà, vu que l'effectif n'est pas exceptionnel à Marseille, on a pas mal de joueurs qui sont à moitié blessés, Gigot revient, et plein de joueurs, ils sont, c'est pas dans quel état encore ils sont physiquement. Bah, à un moment, il faut essayer déjà de jouer en équipe, et ça va être le plus important pour l'OM. Alors qu'Aubameyang marque et qu'il fasse des différences, évidemment que ce sera très important pour la suite, pour le match, mais il faut pas céder. Et rappelez-vous ce qui s'est passé quand même lors du tour précédent. Vous aviez gagné 4 buts d'avance au premier match, et puis Villarreal, vous avez explosé. Donc faut faire attention.
Et puis là, vous parlez individuellement. Pardon. Mais puisque on en est là, quand vous voyez l'équipe de l'Olympique de Marseille, il faut pas que Aubameyang soit le seul à être au-dessus de son niveau actuel. S'il est déjà à son niveau, ce sera formidable. Mais il faut que les autres continuent en Coupe d'Europe à être au-dessus de leur niveau. C'est ça. Il faut que tout le monde surperforme pour passer. Quand vous voyez les matchs de l'OM en Ligue 1, vous vous dites c'est impossible. Or, c'est possible. Parce qu'ils sont meilleurs que ce qu'on voit d'habitude.
Oui, mais...
Donc il faut qu'il soit habité par quelque chose.
Jo, vous me dites qu'il n'y a pas que lui qui marque. Non, il n'y a pas que lui, mais il y a souvent lui.
Oui.
Il y a souvent lui qui marque. J'ai juste compté donc ces 10 buts au total en Ligue Europa, mais moi je me suis branché un peu sur les matchs à qualification directe ou à élimination directe. L'OM a marqué 15 buts. La valeur, on va dire, offensive, c'est 8 buts, c'est 5 buts et 3 passes décisives. J'ai regardé les autres aussi, et les autres joueurs. Les meilleurs buteurs, c'est Chancel Mbemba, 4 buts, dans cette Ligue Europa. Pas les matchs à élimination directe, hein. Toute la compétition, cette saison, 3 pour Jordan Veretout. Les autres attaquants, en général, galèrent.
Oui, mais par exemple, Olivier, le match aller, c'est un contre-exemple formidable pour ce que vous dites.
Mbemba.
Mais Mbemba qui marque un but fantastique.
Et qui est fautif.
Et Aubameyang qui a une occasion incroyable. Il met 9 fois sur 10. Mmh. Et au final, vous faites match nul. S'il y a match nul demain, vous allez aux prolongations, vous allez à la prolongation et vous allez au tir au but. Donc non, c'est pas que Aubameyang.
Moi, je reviens quand même sur la tactique de Jean-Louis Gasset. Alors, ce qui va changer de tactique, je ne le pense pas.
Non.
À l'aller, jeudi dernier, c'était quoi ? Sauter rapidement le milieu et aller voir vraiment soit Ismaël Assar, la vitesse, et puis Aubameyang, la vitesse et à la fois la justesse.
Ouais, c'était aussi sauter le pressing de.
Oui, oui, non, mais c'est.
Ça presse très haut et ça presse ensemble. Donc, si tu sautes un peu la première ligne, après, tu peux aller jouer dans leur camp et c'est. Ouais, dangereux, quoi.
Oui, mais avec ce registre-là, avec cette stratégie-là, Aubameyang, faut pas qu'il en loupe beaucoup, hein.
Ça, c'est le cas de tous les attaquants, évidemment.
Non. Dans cette stratégie-là.
Sauf que Marseille a quand même quelques atouts aussi sur coup de pied arrêté. Et ils peuvent essayer d'aller provoquer des fautes. Et typiquement, on l'a vu lors du match aller. T'as Mbemba qui est un. Bon, là, c'était pas sur coup de pied arrêté, mais qui a un jeu de tête qui est quand même pas mal. Gigot peut aussi. Et au match aller, t'as même. C'est quoi ? C'est Unai qui frappe sur la barre. Donc en fait il y a eu différentes possibilités de marquer, c'était pas que Aubameyang, notamment sur le match aller, et Sarr il en rate une énorme aussi, je crois.
Il marque un but qui est refusé pour un hors-jeu, qui était logique d'ailleurs, le hors-jeu c'était sur le centre d'Enrique. Mais moi je crois que Sarr il est capable de vous sortir un gros match.
Il est capable,
parce que c'est un match tous les...
Il est quand même capable d'en rater beaucoup.
Complètement, mais il a le potentiel athlétique et physique pour faire la différence même contre des grosses équipes, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs de Marseille.
On voit une vraie équipe quand même en Coupe d'Europe de l'OM. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est sur les demi-finales, c'est des mecs comme Rossellou que personne n'attend, c'est Fulcrou que personne n'attend non plus. Donc t'es pas à l'abri que à chaque fois que tu te comportes. Non mais c'est pas le.
Ah ouais, mais c'est un monstre. Hein.
Non, c'est pas le buteur du européen, quoi, tu vois.
Ah, Fulcrou
à 31 ans, je vais prendre.
T'as vu ses stats en équipe
C'est pour dire ça, on peut faire le quiz.
Oui, faisons le quiz.
Donc t'es pas à l'abri d'avoir une équipe, et donc une équipe c'est pas forcément.
Ah, mais ça a passé à la trappe là. C'est... On va pas s'engueuler. Oh, cool.
Sur quoi? Ah, c'est pas. Ah, mais oui.
Ah, mais c'est vrai.
Mais il est remonté comme un coucou.
C'est un complot.
Avec tout ce qu'il nous a dit en coulisses.
Ça me surprend en plus. On a enlevé ça. Je suis très surpris.
Mais non, mais il fallait parler de l'OM. L'OM, c'est demain. Mais peut-il y avoir une journée spéciale? Le quiz aussi, une mauvaise nouvelle. On ne jouera pas
ce soir.
Je suis obligé de rendre l'antenne. Les places de cinéma sont remises en jeu. Voilà. À demain, mes petits, pour la suite de l'équipe du soir. Ça sera demain, on vous embrasse. Les jokers, c'est à demain. Ciao. L'émission est truquée.